7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, content de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 13 juin. Réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage et une baisse d'impôts de 5 milliards. Ce sont quelques-unes des annonces d'Édouard Philippe hier dans son discours de politique générale. Le Premier ministre a aussi dévoilé des mesures en faveur de l'écologie. Alors, qui est concerné? Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Détail, analyse ce matin sur Europe 1. D'abord, à 7h40, les regards croisés de Jean-Michel Apathy et d'Axel de Tarlé. Le plan banlieue a tout juste un an. Quel bilan? Les promesses ont-elles été tenues? Dossier complet à 7h20 dans Europe 1 va plus loin. Et à 7h45, les réponses d'un élu de terrain. Je reçois Philippe Riault, le maire communiste de Grigny dans l'Essonne. C'est l'une des communes les plus pauvres de France. Un hommage national aux sauveteurs en mer aujourd'hui, cérémonie au Sable d'Olonne avec la présence du président de la République. Et puis, foot, les Bleus bien partis pour se qualifier en 8e de finale hier soir. Elles ont battu la Norvège 2-1. Ça a été dur, mais elles ont gagné. Le journal de la Coupe du Monde féminine de foot à 8h35, Europe 1, radio officielle de la compétition. Voilà pour le programme, j'espère que vous vous réveillez tranquillement, vous accompagne jusqu'à 9h. Merci de nous faire confiance, à tout de suite.
Nous sommes le jeudi 13 juin, très bon réveil à tous. Il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Et le premier journal de la matinale est présenté par Hélène Zellani. Bonjour ma chère Hélène.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Édouard Philippe passe au vert, discours de politique générale pour le Premier ministre où l'écologie tenait une large place. Pas touche à la retraite à 62 ans, mais des incitations pour travailler plus longtemps. Emmanuel Macron au Sable d'Olonne ce matin, hommage aux trois marins bénévoles décédés en mer la semaine dernière. Et puis un désastre pour l'industrie de la musique. On apprend qu'Universal Studios a caché la perte de centaines de milliers d'archives parties en fumée dans un incendie en 2008.
8h15, Jordan Bardella, le député européen du Rassemblement National, sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara.
Sans surprise, Édouard Philippe a donc obtenu la confiance de l'Assemblée. Hier, 363 députés ont approuvé sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre a fixé le calendrier chargé des réformes pour les mois à venir. Des chantiers à foison pour cet acte 2 du quinquennat et une dominante verte, Aurélie Herbemont.
L'acte 2 sera écolo ou ne sera pas, c'est le message qu'a voulu faire passer Édouard Philippe après les 13% des Verts aux européennes.
Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du vert. Ces 12 prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique.
Haro sur le plastique dans les administrations, notamment un coup de barre côté vert et un coup de barre à gauche avec l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Ajouté au menu des réformes de la justice fiscale avec 5 milliards de baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes.
C'est massif, c'est clair, c'est net.
Le Premier ministre n'a pas non plus oublié de donner un coup de barre à droite avec la réforme des retraites, fin des régimes spéciaux et volonté affichée de faire travailler les Français plus longtemps.
Nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans en ne bougeant pas l'âge légal, mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps.
Du et en même temps qui ne satisfait évidemment pas les oppositions, mais qui va occuper le Parlement ces prochains mois, après 6 mois au ralenti.
Aurélie Herbemont, vous avez entendu qu'Édouard Philippe évoquait la réforme des retraites. Il a confirmé que la réforme instaurant un système de retraite universelle par points serait l'un des grands chantiers à venir. On ne touchera pas à l'âge légal à 62 ans. Mais pour autant, Olivier Samain, nous serons incités donc à travailler plus longtemps.
Il faudra distinguer l'âge légal, il ne bougera pas, 62 ans, d'un âge d'équilibre qui sera, lui, plus élevé. 64 ans, 65 ans, le gouvernement se garde bien pour l'instant de lâcher un chiffre. Mais en employant cette expression « âge d'équilibre », le Premier ministre donne une indication. Il s'agira d'identifier l'âge à partir duquel la masse des départs à la retraite ne grèvera pas l'équilibre du régime. Les actifs qui accepteront d'attendre cet âge-là pour prendre leur retraite seront avantagés. C'est l'incitation dont parle Édouard Philippe. En clair, leur pension sera majorée, elle se verra appliquer une surcote. Y aura-t-il, à l'inverse, une décote pour les salariés qui ne voudront pas différer leur départ, qui exerceront leur droit à la retraite dès l'âge légal, dès 62 ans? Le Premier ministre n'a pas évoqué ce schéma hier. Faut dire que le sujet est sensible. Même s'il y a un précédent, depuis le début de cette année, les retraites complémentaires sont soumises à un bonus-malus. Les salariés qui partent dès 62 ans se voient appliquer un abattement de 10% sur leur pension pendant les 3 premières années.
Olivier Samin, ce matin, à partir de 9h30, Édouard Philippe prendra la parole devant le Sénat. Pour la première fois, une déclaration de politique générale sera soumise à un vote dans une chambre haute tenue par l'opposition.
Europe 1, il est 7h04.
Nouveau moment de recueillement ce matin en Sable d'Olonne.
Un hommage national qui sera rendu aux trois marins sauveteurs de la SNSM, morts la semaine dernière en voulant porter secours à un pêcheur. Stéphane Loinel est lui-même sauveteur bénévole depuis 14 ans à Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes-d'Armor. Il pousse un coup de gueule sur le manque de soutien financier de l'État.
Alors qu'on fait partie de la chaîne de secours, au même titre que les pompiers, que les urgentistes. Pour autant, on est quasiment seul à financer nos équipements. 80% de financement des investissements de la SNSM sont assurés par les moyens qu'on arrive à collecter dans nos stations. L'État ne donne que 6 millions d'euros. Nous, on nous exhorte à aller récolter de l'argent par nous-mêmes. On fait des kermesses, on vend des calendriers, on vend des produits dérivés pour financer des vedettes qui coûtent au bas mot 1 million d'euros. On estime que les investissements lourds de la SNSM devraient être financés intégralement par l'État.
Stéphane Loinel, sauveteur bénévole au micro-Europe 1 de François Coulon. Autre hommage aujourd'hui, une marche blanche à Lorient, à la mémoire du petit garçon de 10 ans tué par un chauffard, toujours en fuite d'ailleurs. Hier, 500 personnes ont assisté à ses obsèques. L'inhumation se déroulera aujourd'hui en Turquie. Et puis à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, les surveillants se retrouvent ce matin pour décider des suites de leur action. Hier, certains ont refusé de prendre leur service. Ils voulaient réclamer des réponses concrètes en termes de sécurité après la prise d'otage de deux de leurs collègues par un détenu.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. On va parler des footballeuses françaises qui ont un peu de mal hier soir, mais elles ont gagné finalement face aux Norvégiennes. Score final, 2-1. A tout de suite.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. C'est vrai que ça n'a pas été une partie de plaisir, cette victoire des Bleus hier soir. Elles se sont battues comme des lionnes à Nice.
Oui, vous avez pu le suivre en direct sur Europe 1. Les filles de Corinne Diacre l'ont finalement emporté 2-1 contre la Norvège. Deuxième match du mondial et deuxième succès. Une épreuve passée non sans mal, Julien Froment.
Les Bleus ont tenu en haleine les 34 872 spectateurs dans une partie qui s'est déroulée en plusieurs actes. Un coup du pied tout d'abord, celui libérateur de Valérie Gauvin à la 46e minute, puni par Corinne Diacre lors du match d'ouverture pour des retards à l'entraînement. L'attaquante était cette fois-ci à l'heure. Et puis, un coup du sort, le but contre son camp de Wendy Renard, incrédule.
Vous passez de tout au tout en fait. L'équipe arrive à ouvrir la marque. C'est vrai, dans ces situations-là, vous sentez seul en fait. Même comme une conne, limite.
D'un coup du sort, les Bleus s'en sortent avec un coup de pouce du destin. Ce pénalty obtenu grâce à l'assistance vidéo est transformé par Eugénie Le Sommer. Pour la numéro 9 des Bleus, cette victoire dans la douleur soude encore plus l'équipe de France.
Il faut parfois passer par des moments difficiles pour aller loin dans la compétition. Aujourd'hui, on apprend encore. Il faut se servir de ça. L'équipe a eu du caractère, a eu du mental pour revenir et c'est ça qu'il faut retenir.
Encore un petit effort pour les Bleus. Elles devront valider officiellement leur qualification et leur première place lundi prochain à Rennes face au Nigeria. Nice, Julien Froment, Europe 1.
Musique des titres d'Elton John, de Clapton, de Chuck Berry ou d'Aretha Franklin. Tout ça, c'est parti en fumée.
Et
quelle
oui,
tristesse.
C'est le plus grand désastre de l'industrie musicale. Il s'est produit il y a 11 ans et sur le moment, personne ne l'a su. C'est une longue enquête du New York Times qui dévoile l'incroyable nouvelle. La maison de disques Universal a caché la disparition de centaines de milliers d'archives sonores dans l'incendie d'un entrepôt à Los Angeles, Benoît Clerc.
Oui, flashback de 11 ans, nous sommes le 1er juin 2008 au petit matin lorsqu'un incendie éclate dans les studios Universal à Hollywood. Plusieurs centaines de pompiers font rapidement face à un hangar transformé en un gigantesque brasier. Une épaisse fumée noire et une odeur âcre enveloppent bientôt toute la banlieue nord de Los Angeles. Les journalistes sont tenus bien à l'écart et Universal Music Group refuse à l'époque de répondre à nos questions sur l'ampleur des dégâts. Le service communication de Vivendi USA ne va pas hésiter à mentir à la presse en minimisant les faits, nous parlant, je cite, de quelques milliers de copies d'enregistrement détruit. La réalité est hélas beaucoup plus cruelle et la vérité vient d'éclater grâce à Randy Aronson, un archiviste qui n'a pu garder plus longtemps le secret qui le hantait depuis 10 ans. Ce sont au moins 500 000 originaux des années 40 à nos jours, de Ray Charles à Louis Armstrong, de Cat Stevens à Elton John, en passant par Nirvana, John Baez ou Aretha Franklin, qui ont été ainsi perdus à tout jamais. Le montant financier est inestimable, le préjudice culturel est bien plus encore. Vivendi souhaitait vendre la moitié de sa filiale musicale. Apple, Amazon et le chinois Alibaba étaient sur les rangs. Les artistes qui découvrent le scandale vont sans doute aussi lui demander des comptes.
Benoît Clerc à Los Angeles pour Europe 1.
Un peu de musique encore ?
Un peu d'Aretha Franklin.
Ah, ça fait toujours du bien. Vous dansez ?
On y va. vais y aller, moi, je vous laisse.
Qu'est-ce qui me marche sur les pieds depuis tout à l'heure? Hélène Zélani, le journal de 7h. Merci, ma chère Hélène. À demain.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et il est 7h10, Nico, c'est l'heure de retrouver Carole Ferry quelque part sur le terrain.
Bonjour, Carole.
Bonjour, Nico. Bonjour à tous.
Diantre, vous êtes tous ce matin.
Eh bien, je suis dans une salle de classe, assise à mon bureau. Face à moi, j'ai le tableau. À ma gauche, un poster des 21 fromages les plus connus en France. Et oui, car ici, les élèves sont en CAP de fromager crémier. Vous en avez jamais entendu parler ?
En vrai, non.
Et ben voilà, et ben c'est normal. Les 6 premiers ont ouvert en septembre dernier. 17 autres vont ouvrir d'ici 2 ans. Alors ici à Châteaubriant, en Loire-Atlantique, c'est Sacha Defer qui donne les cours. Il est lui-même fromager depuis 20 ans. Hier, c'était révision des appellations d'origine contrôlée.
Ce matin, je vous propose de m'énumérer les AOP de Bourgogne-Champagne. Allez, Sidi, à toi.
On a le Picodon.
T'es sûr de toi, là ?
Pardon, on a les poisses.
Ah, bon.
On a le chaours.
Kylian, dis-moi ce que c'est un chaours.
Bah, c'est un fromage à pâte molle à croûte fleurie. Donc il y a une matière grasse plus élevée qui le rend plus crémeux, plus onctueux.
Ça, c'est un bon fromage. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que c'est le langre ?
Donc, c'est un petit fromage à croûte lavée. Et pour reconnaître que le langre il est plus ou moins affiné, on se réfère à la petite cuve sur la tour. Plus la cuve est creuse, plus le langre il est affiné.
Voilà. Ça donne envie, hein, la pâte molle à la croûte fleurie, bravo. Ouais. Non mais qu'est-ce que ça veut dire, Carole Ferry ? En France, il n'y avait pas de CAP pour les fromages, comme il y en a notamment, je crois, pour la pâtisserie ou la boucherie, il y a une tradition ?
Eh bien non, figurez-vous, hein, tous ces métiers de bouche, car c'était considéré comme du commerce, les fromagers. Mais désormais, c'est bien reconnu comme de l'artisanat, avec des techniques spécifiques. L'affinage du fromage, la composition des plateaux cocktails, vous savez, entre le plateau de fromage et l'œuvre d'art, ou encore la découpe de l'emmental.
On reçoit l'emmental entier, qui fait quand même 70 à 80 kilos. On coupe avec ça, avec un fil. Et puis quand c'est mal coupé au fil, eh ben on arrive à avoir ce qu'on appelle des hélices.
C'est quoi des hélices ?
C'est que le fromage est coupé n'importe comment, quoi, en zigzag. Et c'est pas présentable. Donc il va falloir apprendre à bien couper, bien droit et net. Donc c'est un art de savoir couper au fil. C'est pas évident du tout, croyez-moi.
Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats, Carole Ferry, justement ?
Encore assez peu, hein, c'est mal connu. Mais parmi les candidats, vous avez aussi des jeunes en reconversion comme Kylian, il a 23 ans, une licence, il avait un boulot de technicien qualité, mais il lui manquait quelque chose.
Comme beaucoup de notre génération, je crois que c'est le sens qu'on veut dans nos métiers, et c'est pour ça que je retourne vers un métier d'artisan, enfin artisanal, plus proche des gens, plus proche des territoires aussi. Je m'imagine déjà avec des produits plus locaux, qui sont pas standardisés, de vrais produits.
Ça a du sens.
Ça a du sens, ouais. Là on a envie de s'investir et puis de se lever le matin.
Voilà, un petit conseil pour terminer. Le fromage, ce n'est pas forcément avec du vin rouge, plutôt du vin blanc. Et il paraît que l'idéal avec un roquefort, oui, c'est un petit verre de Porto.
Surtout le matin, un petit roquefort, là, dès le matin, c'est reparti comme en 14.
Avec le Porto, voilà. On attendra ce soir.
Ramenez-nous des fromages corses, on va se régaler. Merci, ma chère Carole Ferry à Châteaubriant, en Loire-Atlantique, avec nos futurs fromagers.
Nico Saliagas sur Europe 1.
On ne va pas en faire un fromage, mais l'économie ne s'arrête jamais, mon cher Nicolas Barret.
Exactement, et je vais vous parler, moi, d'une pépite française à la pointe de la technologie qui rivalise avec les meilleurs mondiaux. J'allais dire Cocorico.
Cocorico, dans quelques instants avec vous. À 7h20, le plan pour les banlieues, qui a tout juste un an, quel bilan en tirer ? Les promesses ont-elles été tenues ? Qu'en pensent les élus sur le terrain ? Dossier complet dans Europe 1, va plus loin. À tout de suite, bon réveil à tous.
Il est 7h14. Il est 7h16, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Emmanuel Macron attendu ce matin en Sable d'Olonne. Le chef de l'État présidera la cérémonie à la mémoire des 3 sauveteurs bénévoles décédés en tentant de porter secours à un pêcheur. Après les députés, les sénateurs, le Premier ministre Édouard Philippe, qui a obtenu la confiance de l'Assemblée, doit prononcer un discours devant le Sénat, contrôlé par l'opposition de droite. Violente chute à l'entraînement pour le quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome. Le Britannique souffre de multiples fractures. Il est forfait pour la grande boucle cet été.
Europe 1.
Économie maintenant, Nico, c'est l'édito éco avec la Société Marseillaise de Crédit, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Société Marseillaise de Crédit, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barret, comme tous les jours, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et ce matin, Nicolas, vous avez choisi de nous parler d'une société française plutôt méconnue, mais qui est une star mondiale.
Oui, cette société, c'est Dassault Systèmes, qui conçoit des logiciels extrêmement sophistiqués qu'on s'arrache un peu partout dans le monde parce qu'ils sont capables de modéliser en 3 dimensions à peu près tout ce que vous voulez, des pièces d'avion, de voitures, de trains, etc. Alors, pourquoi je vous en parle ce matin? Parce que Dassault Systèmes est en train de racheter pour près de 6 milliards de dollars, c'est quand même pas tous les jours, une société américaine spécialiste du traitement de données. Or, le traitement de données, c'est le sujet stratégique de cette première moitié du 21e siècle. Tout le monde, les géants Google, Microsoft, Amazon investissent des milliards là-dedans, d'ailleurs plus que les Européens. C'est la nouvelle frontière technologique.
Et le monde produit en permanence une masse de données, en fait, sur tout, sur vous, sur moi, sur nous, sur nos auditeurs. En fait, il faut analyser tout ça.
Oui, et vous savez combien il y a de données stockées dans les systèmes informatiques du monde entier à l'instant où je vous parle?
Non, allez-y.
Je ne savais pas non plus avant, mais près de 40 zettaoctets, trilliards d'octets. C'est l'équivalent, tenez-vous bien, du nombre de grains de sable qu'il y a sur la planète. Or, ces données, vous imaginez bien qu'elles serviraient à rien si on ne savait pas les traiter, les analyser, d'où la course aux compétences dans ce domaine. Et il y a un domaine où la quantité de données à traiter explose, eh bien, c'est la santé. Et c'est justement la spécialité de la société que rachète aujourd'hui Dassault Systèmes.
Qu'est-ce que ça permet de faire?
Vous savez, quand un labo travaille sur une nouvelle molécule, il doit faire des essais cliniques, ça coûte une fortune. Ces essais nécessitent de traiter énormément de données. Ça représente un coût très important dans le développement d'un médicament. Or, le numérique est en train de révolutionner tout ça. Le traitement de données, c'est aussi ce qui va permettre le suivi des essais thérapeutiques pour un patient qui est atteint d'un cancer, par exemple. C'est ce qui va permettre de mettre au point de plus en plus de traitements individualisés, sur mesure, plus efficaces. Au fond, c'est la nouvelle frontière de la médecine. Et Dassault Systèmes en fait maintenant partie. Ça méritait un coup de chapeau.
Merci Nicolas Barret. Et maintenant, je sais qu'on fait partie des zettaoctets de la planète.
Voilà.
C'était l'édito Éco sur Europe 1.
Europe 1, Nikos Aliagas.
Il est 7h19, Europe 1 va plus loin. Enquête ce matin sur le plan banlieue lancé il y a un an. Le gouvernement présente aujourd'hui, Nikos, un premier bilan.
Les promesses ont-elles été tenues? Qu'en pensent les élus sur le terrain? Quelle application concrète dans les quartiers? Bonjour Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Ce plan a tout juste un an, il a connu des débuts plutôt compliqués en fait.
Et un contexte particulier, 6 mois après l'élection du président Macron, des maires de banlieue signent l'appel de Grigny pour demander un plan d'urgence. Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville, auréolé d'une solide réputation dans les quartiers, est mandaté par le président. Il travaille 6 mois avec les élus, rend un rapport qui fait consensus à peu près partout, sauf dans les yeux du président Macron. 22 mai 2018, à la surprise générale, le président rejette violemment le plan lors d'un discours.
Je ne vais pas vous faire un plan parce que, quelque part, ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça marche plus comme ça.
Voilà, les deux mâles blancs, ils sont dans la salle. Jean-Louis Borloo et le ministre Julien de Normandie, énorme malaise. Le rapport Borloo était enterré, personne n'a réellement compris pourquoi, mais étonnamment, les idées de Jean-Louis Borloo, elles sont restées.
Mais quelles étaient les promesses du gouvernement pour les banlieues à l'époque?
Eh bien, des mesures pour l'éducation ou la sécurité, de l'argent, près de 6 milliards d'euros dans la rénovation urbaine, 2 milliards dans la formation, mais aussi des emplois francs qui permettent aux entreprises de toucher des aides quand elles emploient un habitant d'un quartier prioritaire.
Et qu'est-ce qui reste de ces promesses un an après, Jean-Louis?
Eh bien, le gouvernement revendique d'avoir appliqué déjà 75% de ce plan. Selon nos informations, la police de sécurité du quotidien, par exemple, est déjà déployée dans 47 quartiers. 300 000 enfants auront droit à la rentrée prochaine au dédoublement des classes de CPCE1. Mais il y a aussi des disparités. Sur les emplois francs, dont je vous parlais à l'instant, le gouvernement visait 20 000 emplois par an. Fin avril, moins de 6 000 ont été acceptés, soit un tiers de l'objectif initial. Mais notons qu'à 82%, ce sont des CDI et que dans un cas sur deux, l'emploi décroché l'est en dehors du quartier d'origine.
On va aller voir précisément, Jean-Rémy, sur le terrain ce qui se passe, comment ce dispositif des emplois francs est appliqué. Illustration à Roubaix avec notre correspondant Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Après un an, le bilan est plutôt positif sur place?
Oui, parce que dans la région Hauts-de-France, ce sont près de 2000 contrats emploi francs qui ont été signés et plus de 200 ici à Roubaix. Alors l'un des derniers salariés embauchés, je l'ai rencontré chez un artisan couvreur du quartier de l'Alma à Roubaix, Ludovic, 36 ans, des années de galère derrière lui et finalement un CDI qui va lui changer la vie.
Ça va m'aider financièrement déjà et avoir une vie quoi. Parce que vivre avec le RSO, c'est pas top.
Vous avez un petit peu plus confiance en vous maintenant?
Ben disons quoi, il n'y a pas beaucoup de monde qui donne de sa chance à une personne qui a 36 voire 37 ans. Maintenant que je l'ai, ben je vais pas le lâcher.
Alors pour embaucher Ludovic en CDI, Yazid Ounas bénéficie d'une aide de 5000 euros par an pendant 3 ans. C'est plus qu'un coup de pouce pour ce jeune artisan patron qui voulait aussi tendre la main à un chômeur de son quartier.
5000 euros par an, c'est l'équivalent de 2 mois et demi de salaire. C'est un vrai coup de pouce, c'est double rentabilité en fait. On a un ouvrier en plus, ça veut veut dire on peut prendre du boulot en plus et on est aidé pour le payer. Sans cette aide-là, je n'embaucherai pas.
Alors, dans ce dispositif, Pôle emploi a mis en place un accompagnement des candidats et des chefs d'entreprise, des périodes test d'immersion en entreprise, des formations, ce qui permet, selon Julien Dewal du Pôle emploi de Roubaix, eh bien de limiter les échecs et de pérenniser les emplois.
Tous ces dispositifs qu'on met en amont avant le contrat de travail, ça nous permet de minimiser ces pertes et de sécuriser au maximum le recrutement. Et que cette aide-là donne plus de chance aux candidats pour pouvoir bénéficier et entrer pleinement dans la vie active, parce que ça reste un contrat de travail à proprement dit.
Alors, les emplois francs viennent d'être généralisés à tous les quartiers prioritaires de la région Hauts-de-France. La semaine prochaine, Pôle emploi organise aussi des opérations dans ses agences pour promouvoir ce dispositif qui reste malgré tout encore assez mal connu des chefs d'entreprise.
Merci Lionel Gougelot pour le reportage. Si on reste sur le terrain, Jean-Rémy Baudot, quel regard portent les maires de banlieue sur ce plan ?
Eh bien, j'ai longuement parlé cette semaine avec des maires très investis à l'époque du plan Borloo sur les promesses du gouvernement. Objectivement, les cases sont cochées, dit l'un d'entre eux qui salue la dynamique sur la rénovation urbaine, sur les cités éducatives, sur la formation. Mais en Seine-Saint-Denis, on dit que, je cite, « personne ne ressent symboliquement les mesures du gouvernement ». En fait, on comprend que le rejet par le président Macron du plan Borloo, les mots qu'il a utilisés, cette référence au mal blanc, tout ça, ça ne passe pas, ça a cassé quelque chose avec les maires de ces communes. Mm-hmm. Donc globalement, le plan semble marcher, il est salué par les acteurs locaux, mais la relation entre l'État, le président et notamment les maires de banlieue reste très détériorée.
On donnera la parole ce matin à l'un de ces maires, il sera notre invité à 7h45, Philippe Rio, maire de Grigny justement, et avec d'autres élus locaux, c'est lui qui avait lancé un appel d'urgence à l'État pour venir en aide au quartier. Merci Jean-Rémy Baudot, merci Lionel Gougelot pour cette enquête signée Europe 1. Va plus loin.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre l'innovation avec vous, Anissem Bidan. On va parler de casques ce matin pour trottinettes.
Oui, des casques pliants qu'on peut ranger dans sa poche.
Bah c'est solide ça.
Mmh. Vous allez voir.
Ok, à tout de suite.
Il est 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour avec Anissem Vidanikos.
Et on va parler ce matin, Céline, des trottinettes qui créent pas mal la polémique. Il y en a de plus en plus dans les grandes villes, il y a plein d'accidents. Et le pire, c'est que bien souvent, on ne porte pas de casque. On ne sait pas quoi faire après son trajet avec le casque, donc on ne le prend pas. Mais ça peut changer. Vous nous dites, Anissé, on a trouvé des casques pliants.
Oui, oui, des pliants qui rangent dans la poche. Alors pour certains, il faut quand même avoir une grande poche ou alors un sac.
Ou un sac,
mais dans tous les cas, ça prendra beaucoup moins de place qu'aujourd'hui. Par exemple, celui des Français d'Overhead, il se replie en deux et la partie intérieure devient télescopique, ce qui donne grosso modo la taille d'un bon pamplemousse. Il y a aussi les Américains de Park & Diamond. Eux, ils vont beaucoup plus loin puisqu'ils arrivent à replier les casques comme un accordéon, donc quasiment à plat. Du coup, c'est comme si vous voyagez avec une grosse banane. On vous a mis des photos, toutes les photos sur le hashtag Europe 1. Mais celui qu'on attend le plus, c'est celui des Alsaciens de Bump Air, qui sera à la fois pliant et gonflable, ce qu'il ferait tenir, tenez-vous bien, dans un espace d'un paquet de cigarettes. Donc lui, on devrait pouvoir le rentrer dans sa poche.
Mais c'est solide ce genre de casque en fait, parce qu'on peut l'utiliser aussi pour quand on fait du vélo.
Oui, c'est les mêmes pour le vélo et pour la trottinette. Évidemment, c'est censé être solide parce qu'ils sont tous certifiés, ils passent tous exactement les mêmes tests que les casques de vélo traditionnels, sauf que sinon ils ne pourraient pas être commercialisés.
D'accord.
Mais ce qui manque maintenant, ce sont des sortes de distributeurs de casques pour vélo et pour trottinette. Ça serait quand même pas mal, on ne serait plus obligé d'emmener le sien et de le ranger dans sa poche. On pourrait prendre un casque disponible.
Le monde change, monsieur. Merci Anissa Mbida, c'était l'innovation du jour.
Avec EDF, mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kahneman. Tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol.
On pourrait vendre aussi des mini parapluies.
Ah bah les casques parapluies, c'est vraiment bien. C'est vrai, en plus.
On est en ce moment.
On n'a pas l'air bête sur le trottinette avec le casque et le parapluie.
Racontez-nous alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut mettre un casque?
Eh bien, oui, parce qu'effectivement, un parapluie n'est pas inutile, mais de moins en moins, ça c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que l'amélioration est franche. La goutte froide dont je parlais au début de la semaine est en train de s'en aller. La goutte froide, c'est cette petite toupie qui tourne au-dessus de notre tête et qui apporte une dépression en permanence au-dessus de nous. C'est la raison pour laquelle il pleut sans arrêt.
D'accord.
Eh bien, là maintenant, elle se déplace, enfin se déplace. Donc nous aurons encore près de la Manche un peu de des nuages avec encore un peu de pluie. Sur Paris, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, Lorraine, Poitou-Charentes, le Centre, le Limousin, les Pays de la Loire. C'est également un temps relativement nuageux, avec parfois trois gouttes. Allez, mais on va essayer de ne pas trop y penser. Elles seront quand même assez rares, assez espacées. Et puis du soleil dans le sud-ouest, le Dijonais, l'Alsace, les régions de l'Est, grosso modo, l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, ainsi qu'en Méditerranée. Les températures aujourd'hui sont à la hausse, ça c'est la bonne nouvelle, entre 19 et 27 degrés. Et je vous parlerai de la suite tout à l'heure.
Voilà une bonne nouvelle, merci beaucoup.
À tout suivre, Nikos.
Eh bien, le discours de politique générale prononcé hier par le Premier ministre devant les députés, Édouard Philippe, en sort-il politiquement renforcé? C'est la question. On écoutera l'édito de Jean-Michel Apathy à 7h45. 7h40. Et on écoutera aussi Axel de Tarlet à 7h43. Prépare-t-il déjà, le Premier ministre, une réélection du président Macron? La réponse dans un instant. Excellent réveil à tous.
Nous sommes le jeudi 13 juin, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1. Le journal est présenté par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Quatre jours après le terrible accident qui a coûté la vie à un petit garçon et en a blessé un autre grièvement à Lorient, va-t-on enfin retrouver celui qui était au volant ainsi que sa passagère? Quatre jours maintenant qu'ils sont recherchés par la police. Aujourd'hui à 13h30, une marche blanche est prévue à l'initiative des habitants du quartier. Hélène Terzian est l'envoyée spéciale d'Europe 1 sur place.
Le parcours est symbolique. En s'élançant près du centre culturel turc, la marche empruntera la route utilisée par la voiture meurtrière pour s'achever sur le lieu de l'accident, aujourd'hui recouvert de fleurs. Un moyen pour Pascal, habitante de Lorient, de soutenir une famille et tout un quartier bouleversé.
C'est un besoin de se rendre parmi les autres personnes pour rendre un hommage collectif, en fait. Les gens sont encore plus attristés par le fait qu'ils persistent en fait dans sa fuite. Ils ont du mal à faire leur deuil à cause de cela.
Et justement, derrière l'hommage rendu aux deux enfants fauchés, cette marche est aussi une forme d'appel aux fuyards. Véronique Samuel, à l'initiative du rassemblement, veut adresser un message aux jeunes chauffards.
Regarde ce qui s'est passé, ce que tu as fait. Le monde qui soutienne cette famille, les hommages, il y a la colère. Un minimum de respect pour la famille, que les histoires s'apaisent et rends-toi.
Une marche silencieuse à laquelle participeront de nombreux membres de la communauté turque. Le petit garçon de 9 ans mort dans l'accident est inhumé aujourd'hui dans l'est de la Turquie.
Reportage signé Hélène Terzian pour Europe 1. Emmanuel Macron aujourd'hui au Sable d'Olonne. Il va présider un hommage national aux trois marins de la SNCSM décédés la semaine dernière en portant secours à un pêcheur. Ils vont recevoir la Légion d'honneur à titre posthume, tout comme les quatre rescapés. Agnès Buzyn en visite surprise à l'hôpital Saint-Antoine à Paris hier soir. C'est de là qu'est partie la contestation il y a 3 mois. La ministre de la Santé est restée environ 1h30 avec le personnel qui réclame plus de moyens et des augmentations de salaire.
Il va sans doute falloir travailler plus longtemps, annonce d'Edouard Philippe hier devant les députés lors de son discours de politique générale.
Oui, discours à l'issue duquel il a obtenu la confiance de l'Assemblée. Il s'exprimera tout à l'heure devant le Sénat. Travailler plus longtemps, donc, ça va se passer par la définition d'un âge d'équilibre, ce sont les termes employés, au-delà de l'âge de 62 ans. Un allongement qui inquiète 34% des salariés, 60% des dirigeants d'entreprise. Résultat d'une étude Harris Interactive publiée par le groupe de protection sociale Malakoff-Médéric. Olivier Samin.
Travailler plus vieux, pas sûr que je tienne le rythme. Voilà la crainte principale d'un grand nombre de salariés. Le rythme sur le plan physique, mais pas uniquement, soupire Stéphane qui travaille chez SFR et qui est aujourd'hui dans la force de l'âge.
Évidemment, quand on travaille tard, on est vieux, on est fatigué. Puis il y a aussi de la pénibilité qui augmente. Mais surtout qu'à 65 ans, ça va être difficile de concurrencer des jeunes de 25 ans qui sortent d'école. Et que oui, j'imagine qu'en termes de dépression, ça peut être sympa aussi. Ouais.
L'inquiétude, elle est aussi du côté des employeurs. Avec des salariés plus âgés, les accidents et maladies professionnelles risquent d'augmenter, donc l'absentéisme. En même temps, reconnaît Sylvia, qui dirige 50 personnes, en même temps, il faut se méfier d'une approche simpliste.
Il y a des gens qui peuvent continuer, il y a des gens qui ne peuvent pas continuer. Tout dépend d'un parcours, d'un état de santé. Moi, ça m'est arrivé de recruter quelqu'un qui avait 54 ans. Je ne vous cache pas que les ressources humaines sont venues m'interroger sur ce choix. Mais il y avait des compétences et puis quelqu'un qui d'ailleurs a été au bout de sa carrière sur le poste.
Dans les atouts que les employeurs voient chez les seniors, il y a l'expérience, l'autonomie, la capacité à prendre du recul. Mais à l'opposé, il y a leur adaptation moins facile aux transformations de l'entreprise et leur difficulté à maîtriser les nouveaux outils et technologies.
Olivier Samin avec Maya Sido pour Europe 1. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, propose de ne plus poursuivre les délinquants de moins de 13 ans. La garde des Sceaux veut établir un seuil d'irresponsabilité pénale en dessous de cet âge, annonce aujourd'hui dans un entretien au journal La Croix.
Ils sont le fruit d'un amour interdit. 3 enfants de prêtres vont être reçus par un groupe d'évêques à Paris.
Oui, le Vatican et l'actuel pape François se sont toujours opposés au mariage des religieux. Anne-Marie Mariani est l'une de ses enfants. Elle a aujourd'hui 68 ans. Elle est née d'une histoire d'amour entre un curé et une nonne. Ah. Elle préside aujourd'hui l'association Les Enfants du Silence. Elle aimerait que les mentalités changent.
On reste malgré tout le fruit de la transgression. Quand on est au lycée, quand on est au travail, allez dire comme ça, tu sais, je suis fille de curé. Vous allez voir ce que ça fait. C'est des moqueries, c'est des humiliations, c'est le rejet. Nous avons été traités de bâtards, d'enfants de Satan. Moi, j'ai quand même été placée pendant les 3 premières années de ma vie. Mon père, il a vécu l'enfer. Il a subi des pressions terribles à l'époque. Ma mère est sortie des ordres plus facilement, on va dire, avec un évêque qui lui a proposé de l'argent pour qu'on disparaisse, elle et moi, afin de sauver l'honneur de l'Église. On arrive à des situations qui sont terribles.
Anne-Marie Mariani, jointe par Pierre Herbulot pour Europe 1. Le mondial de foot, les Françaises ont battu les Norvégiennes hier soir à Nice. À l'issue d'un match où il a fallu y aller au mental, victoire de 2-1. Les Bleus sont quasiment assurés d'une place en huitième de finale. Les Françaises qui jouaient encore hier à guichet fermé avec un public totalement conquis. Ce qui forcément fait la différence, Gaëtan Tinet, milieu de terrain.
C'était extraordinaire. On commence à s'habituer. Non, franchement, c'est magnifique de vivre une Coupe du Monde chez soi, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais je pense que vraiment, on était très, très focus sur le match. Et puis à la fin, voilà, la délivrance avec le public, toujours cette Marseillaise qui est extraordinaire.
Extraordinaire, cette Marseillaise.
Bravo.
Gaëtan Tina avec
bravo
Julien Froment. Prochain match, lundi face au Nigeria. Toute l'actu de ce mondial, ce sera bien sûr avec Jérôme Lacroix à 8h35 sur Europe 1, radio officielle de la compétition.
Je vous regarde et je vous dis que vous devriez vous mettre, franchement, mettez vos crampons, allez-y.
Non,
vous l'avez.
Rejoignez-les.
Je suis sûr.
Moi, je vous regarde.
Vous pouvez tirer des corners de malade, j'en suis certain. Merci Céline Kallmann.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Jean-Michel Apathy, fan de foot, fan de tennis et fan de politique, évidemment.
Bah oui, quand même. Hein. Et donc hier, une majorité a soutenu le discours de politique générale du Premier ministre.
Ils sont gagnants ou pas ?
Voilà, ça n'est pas une surprise, mais c'est un miracle. Je vous raconte tout ça.
Merci beaucoup, Axel de Tarlet.
Eh ben moi, j'ai trouvé que côté économique, on avait l'impression que c'est la fin des réformes impopulaires. En gros, pour cet acte 2, on a un Emmanuel Macron qui se chiraquise.
Apathy, Tarlet, dans un instant sur Europe 1.
Il est 7h39, Nicolas Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Hier soir, le Premier ministre, Édouard Philippe, a obtenu la confiance des députés après son discours de politique générale. 363 voix pour, 163 voix contre. Édouard Philippe sort-il renforcé de cette séquence,
oui,
Jean-Michel Apathy ?
Oui, c'est une évidence, mais c'est aussi un miracle parce qu'Édouard Philippe vient de traverser une très longue période de contestation sociale, les Gilets jaunes. Il a perdu des élections. La liste qu'il soutenait avec Emmanuel Macron lors des élections européennes est arrivée en seconde position. Alors même qu'Emmanuel Macron s'est beaucoup mobilisé pour dire il faut que cette liste termine en tête. Donc dans ces conditions, sortir avec un vote comme celui-là à l'Assemblée nationale, sortir de cette longue lessiveuse, oui, c'est un peu miraculeux. Et comme souvent, les miracles ont des explications simples. D'abord, Édouard Philippe n'a aucun concurrent sur la scène politique. Il n'y a pas de projet politique alternatif. Il n'y a pas de parti politique susceptible de prendre le pouvoir à la place de La République En Marche. Le Rassemblement National est coincé au 25%, sans alliés. Donc, ça conforte évidemment Édouard Philippe qui obtient hier 363 votes pour, vous l'avez dit. Il y a 2 ans, c'était 370 votes. Il n'y a pas de perdition en 2 ans. Ça montre que les institutions sont solides. Et au passage, c'est une bénédiction pour une démocratie d'avoir des institutions solides. Mmh. Ceux qui parlent de la 6e République devraient évidemment y réfléchir. Et puis, Édouard Philippe correspond à l'ère du temps. Quoi qu'on en dise, la France est aujourd'hui plutôt à droite qu'à gauche. D'ailleurs, la gauche, on ne sait plus trop où elle est. Donc, plutôt à droite qu'à gauche. Et c'est exactement ce qu'est Édouard Philippe. Donc, plutôt dans l'ère du temps. En plus, on l'a noté hier parce qu'il commence son discours par là. Il en fait un quart d'heure. Édouard Philippe sait s'adapter à l'ère du temps. C'était assez fort de voir à la tribune un premier ministre, dire « Je suis un ancien de chez Areva. L'écologie, pendant longtemps, ça n'a pas été mon truc. Mais maintenant, je vais m'y mettre. » C'était assez fort. Ça correspond évidemment, on a bien vu que le vote écologiste dans les démocraties occidentales, les démocraties européenne était un vote qui montait, donc ça correspond à quelque chose, Édouard Philippe s'adapte, même si sur l'écologie, son discours était quand même assez faible, il n'y avait pas grand-chose vraiment là-dessus, on peut et sans doute on doit mieux faire. Donc voilà, Édouard Philippe, armé pour l'acte 2 du quinquennat, c'est la communication gouvernementale qui appelle ça comme ça, acte 2 du gouvernement, qui est un acte 2 qui se profile quand même très difficilement. Il y a les retraites, une hypocrisie formidable dans le discours d'Édouard Philippe. Il n'y a plus d'âge de départ à la retraite, il y a un âge d'équilibre maintenant. Vraiment, on nous prendrait pour des benets, qu'on ne nous sortirait pas
de
concepts
comme ça. C'est de la sémantique, c'est de la com, c'est ça
oui,
que vous
non,
dites.
Mais c'est insupportable.
On va travailler plus, en gros, c'est ce qu'il dit.
Si on me dit, voilà, on partira à 64 ans, il faut assumer les choses.
D'accord.
Enfin, ça, c'est quand même le minimum. La PMA en septembre, il y aura évidemment des manifestations, des mobilisations. Ça, c'est fort. C'est un choix politique fort. Au passage, on nous parle de référendum pour tout. Alors, pour l'écologie, on va faire des référendums. On nous en propose un pour ADP. On ne fera pas de référendum pour la PMA ? C'est peut-être un peu tôt pour poser ce débat, mais enfin, si on parle de démocratie à propos de tout et de rien, faire la PMA comme ça, sans en discuter devant la société, ça peut aussi être discutable. Donc, beaucoup de choses discutables dans le discours, beaucoup d'obstacles pour Édouard Philippe, les élections municipales qui peuvent être aussi du désagrément. Personne ne peut dire que le Premier ministre est en poste là, aujourd'hui, jusqu'à la fin du quinquennat, mais tout le monde doit convenir qu'il n'a aucun remplaçant potentiel. Donc, Édouard Philippe est assez fort, c'est une évidence.
Le point de vue de Jean-Michel Apathy. Axel de Tarlé. Le discours de politique générale, on l'a dit, après 2 ans de réforme, le gouvernement entame l'acte 2 du quinquennat. On vient de l'entendre, c'est ce que nous a dit Jean-Michel Apathy. Il prépare quoi ? 2022, clairement.
Bah oui, pour rebondir sur ce que disait Jean-Michel, on a l'impression quand même que le gouvernement, enfin qu'Édouard Philippe et tout le gouvernement ressort quand même un peu traumatisé de toute cette séquence des Gilets jaunes, et que la conséquence, c'est qu'il a perdu sa niaque réformatrice, il a perdu sa volonté de faire des réformes douloureuses et impopulaires. D'ailleurs, Édouard Philippe semble considérer, au fond, les réformes économiques ont été faites, que ce soit la réforme du code du travail ou l'apprentissage, et on a eu l'impression hier qu'il disait maintenant c'est le temps de la récolte. Il l'a dit, nous avons reçu 5 sur 5 le message des Gilets jaunes, l'heure est à la justice sociale, ça a été répété plein de fois, et il dit même vis-à-vis des entreprises, on vous a beaucoup donné, et il a insisté sur le mot, il dit moi j'attends maintenant des contreparties, et donc attention, les patrons qui embauchent trop en CDD seront pénalisés. Donc vous voyez, on est vraiment dans la redistribution. Alors il y a une avalanche de cadeaux, on peut les citer, hein, baisse d'impôts pour la quasi-totalité des contribuables, suppression de la taxe d'habitation pour tout le monde, prime Macron reconduite, création d'un revenu universel d'activité, on va s'occuper aussi de la dépendance, sans qu'à aucun moment d'ailleurs on explique comment on va financer tous ces cadeaux. C'était quand même l'angle mort hier de ce discours de politique générale, il n'y a rien sur les économies. Alors à part si le traditionnel couplet sur tiens on va tailler dans les niches fiscales, ce qui au passage... Quand on taille dans les niches fiscales, c'est absolument pas une économie. Ça consiste, ça consiste à relever les impôts pour ceux qui bénéficiaient des niches fiscales. Donc on ne fait pas d'économie, on relève les impôts.
Quoi, il a quand même parlé de la réforme des retraites.
Oui, mais alors moi, là, contrairement à Jean-Michel, je serais plus mesuré. Je pense que cette réforme... D'ailleurs, à l'origine, cette réforme des retraites, elle ne visait pas à faire des économies. Bah, hier, on en a quand même eu la preuve. D'ailleurs, il a commencé, Édouard Philippe, par faire des tas de cadeaux. Il a dit que le nouveau système serait plus redistributif, avec des nouveaux droits pour les enseignants, des nouveaux droits pour les carrières courtes, qu'on allait relever les petites retraites. Il a quand même dit... On touchera pas à l'âge légal. Alors oui, c'est vrai, il a dit on va inciter à travailler plus tard, mais il
c'est
a donné...
C'est quoi l'âge d'équilibre ?
Oui, eh ben, il avait l'air de dire qu'on travaillait 2 ans de moins que les autres. Mais il n'a pas donné de détails, et j'ai peur qu'en exécution avec ce pouvoir affaibli, on se retrouve avec une réforme des retraites qui ne génère aucune économie, alors qu'on vient nous expliquer que notre système de retraite sera déficitaire jusqu'en 2042. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, Nikos, avant 2042, il y a 2022, donc basta sur les réformes. On va avoir un Emmanuel Macron en mode réélection. Et c'est dommage.
Merci Axel de Tarlé. C'était le Zoom Echo. Merci messieurs.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, le regard d'un élu de terrain sur le plan banlieue du gouvernement. Les promesses ont-elles été tenues ? Je reçois Philippe Rio, il est maire communiste de Grigny dans l'Essonne. Et avec d'autres élus locaux, c'est lui qui avait lancé un appel d'urgence à l'État pour venir en aide au quartier. Que s'est-il passé depuis ? La réponse, juste après ça, tout de suite.
Excellente matinée à tous sur Europe 1, il est 7h45. Il est 7h47, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Emmanuel Macron préside aujourd'hui une cérémonie en la mémoire des 3 sauveteurs de la SNSM, morts vendredi dernier en portant secours à un chalutier. Ça s'est passé au Sable d'Olonne. Le mondial de foot féminin, 2e victoire consécutive pour les Bleus, qui ont battu les Norvégiennes hier soir à l'issue d'un match plutôt laborieux, il faut bien le dire, 2-1 à Nice. Place quasi assurée en 8e de finale. Puis un mot de météo, vous dire que ça s'arrange doucement. Encore quelques averses sur l'ouest du pays, mais ailleurs le soleil va finir par s'imposer. Température de 17 à 31 degrés.
Europe 1.
Les différents acteurs de la politique de la ville se retrouvent aujourd'hui à Paris autour de leur ministre Julien de Normandie. Quel bilan pour le gouvernement dans ses actions pour les quartiers ? Nikos, vous recevez ce matin Philippe Rio, le maire communiste de Grigny dans l'Essonne, l'une des villes les plus pauvres de France. Avec d'autres élus de terrain, c'est lui qui avait lancé un appel à l'État pour venir en aide aux banlieues.
Bonjour Philippe Rio.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre appel remonte en fait à 2017. Un an plus tard, Jean-Louis Borloo présentait un plan d'action pour mettre tout ça en musique. Il s'était fait cadrer, on le sait, on l'a dit ce matin, par le président Macron. Et son rapport avait fini au placard. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les choses bougent. Finalement, ce sont 75% des mesures proposées à l'époque qui sont appliquées. C'était du temps perdu, du temps gâché ?
Oui, il y a une incompréhension, un gâchis, un élan brisé d'une mobilisation nationale qui était né de l'appel de Grigny et qui s'est trouvé sur le perron de l'Élysée, donc de la République. Mais vous l'avez dit, nous sommes dans une période de rebond, de relance,
ouais.
Un stop and go. Mais on va y aller.
Dans ce plan Borloo, beaucoup d'idées venaient directement du terrain des élus. C'est pas le cas aujourd'hui ?
Si. La force de ce mouvement qui s'est cranté avec Jean-Louis Borloo repose sur trois piliers très forts et qui étaient novateurs. Il y avait un consensus transpartisan sur le diagnostic et sur un certain nombre de solutions qui étaient imparfaites, incomplètes. Mais jamais dans l'histoire de la politique de la ville,
c'est
il y avait eu
ça. C'est quoi un consensus transpartisan ?
C'est-à-dire que nous étions des élus locaux de droite et de gauche.
Unis.
Très concrètement, unis sur une vision commune des quartiers populaires et un plan d'action solide, robuste, à partir de nos solutions locales.
Pas de clivage, pas d'idéologie.
Avec un rôle des associations, parce que la cohésion sociale, elle se fait aussi par du bénévolat associatif, par ce travail remarquable des associations. Et le troisième élément qui était exceptionnel dans cette période, c'est le rôle joué par vous, les médias. Pendant six mois, vous nous avez accompagnés avec un regard nouveau. La dernière fois que nous avions parlé des banlieues pendant six mois, c'était en 2005 pendant les émeutes.
Dans un autre contexte. Alors justement, il y a des mesures concrètes qui s'appliquent. Hein. Déploiement de la police de sécurité au quotidien, dédoublement des classes de CP et de CE1. On va s'arrêter, si vous voulez bien, Philippe Réau, sur deux mesures très concrètes. D'abord, la rénovation urbaine. Est-ce que ça va dans le bon sens ?
Oui, allez, on a mis le coup d'accélérateur. C'était un point de blocage depuis 3-4 ans. Le travail que nous avons fait en commun a accéléré. C'est une machine aujourd'hui à projet. Il faut qu'elle respecte les habitants, mais elle est en marche.
Il y a aussi les cités éducatives. Hein. C'est la prise en charge des jeunes jusqu'à 25 ans dans les quartiers populaires. C'est quelque chose que vous attendiez aussi, j'imagine.
Je reviens juste sur la question du logement.
Oui.
Grande prise en compte de la question des copropriétés dégradées, qui est le mal logement en France. Hein. Fondation Abbé Pierre, tous ceux qui travaillent sur ces questions le savent. Aujourd'hui, notre pays est à maturité. Il y a eu un coup d'accélérateur après le plan Borloo sur les copropriétés dégradées. J'en ai une petite de 5000 logements, je sais de quoi je parle à Grigny. Effectivement, Cité éducative était un modèle issu des territoires. Nous l'avons, la cellule souche, l'appartement témoin a été réalisé à Grigny et aujourd'hui ça va être démultiplié. Donc oui, cette coopération intelligente entre acteurs de terrain qui ne travaillent pas uniquement dans leurs couloirs et dans leurs silos, c'est quelque chose que nous attendions pour être beaucoup plus efficace concrètement dans la proximité et dans le quotidien.
Vous êtes un homme de terrain et vous dites que les élus locaux sont des urgentistes de la République. On voit qu'aujourd'hui les urgentistes des hôpitaux souffrent. Est-ce que les élus locaux souffrent aussi ?
Évidemment. Lorsqu'il y a un manque de considération, un manque de respect, de l'absence de stabilité dans les moyens ou dans les outils qui nous sont donnés, nous vivons la même chose. Et beaucoup de respect pour les urgentistes actuellement qui se battent. Une centaine, c'est du jamais vu en France. C'est le même sentiment que nous partageons. Si nous n'avons pas considération, respect de la stabilité et les outils pour faire notre boulot, au bout d'un moment, on est en burn-out et on craque. Et on voit bien que le mouvement, y compris soit des quartiers populaires, juste avant les Gilets jaunes, et la parole des élus locaux, des territoires périurbains ou ruraux délaissés. C'est la raison pour laquelle, dans le plan Borloo, j'insiste, nous n'étions pas que quartiers populaires. 6 millions d'habitants, on était sur les 15 millions d'habitants dans les quartiers
plus larges.
On faisait appel aux territoires ruraux délaissés, aux territoires d'outre-mer, aux bassins de reconversion industrielle, qui connaissaient les mêmes fractures. Baisse du service public, dégradation de la cohésion sociale. Et donc, nous appelions ce plan, il visait aussi à... Voilà, on anticipait peut-être ce qui se passait.
De quoi auriez-vous besoin aujourd'hui, Philippe Réau, vous, en tant que maire de Grigny ?
Je le disais, il nous faut de la stabiliser. On ne peut plus continuer à travailler avec des moyens précaires dans des territoires qui sont extrêmement précaires.
Donnez-moi un exemple, c'est quoi, moi, quelque chose qui est précaire chez vous, dans votre quotidien ?
Il y a bien évidemment la question financière.
Il manque des sous.
Il manque des sous et de la stabilité. Il faut arrêter de changer les règles du jeu tous les quatre matins.
Encore.
Okay. Ça change tout à chaque fois et ça devient véritablement impossible. Passer son temps à faire et défaire, c'est ne pas faire.
Vous allez rencontrer Julien de Normandie, tout à l'heure le ministre chargé de la ville et du logement. Vous vous réunissez aujourd'hui à la grande halle de la Villette. Hein, le titre, c'est « Une grande équipe de la réussite républicaine ». Bon, c'est de la com' où on peut faire des choses, véritablement.
Écoutez, une période de rebond, moi je souhaite juste que sur la méthode, cette équipe de France, ça ne soit pas uniquement des acteurs de la politique de la ville et des quartiers populaires.
Oui.
L'équipe de France, c'est la France tout entière qui doit être mobilisée. Je le dis très clairement, le patronat, je le dis très clairement, les syndicats, je le dis très clairement, les médias, vous avez un rôle déterminant sur l'image des quartiers. Mmh. Et moi, je compte beaucoup sur vous.
Philippe Rio, vous êtes maire à Grigny dans l'Essonne, vous avez 44 ans, pourquoi vous vous êtes présenté? Pourquoi vous êtes allé au service des autres et vous n'êtes pas resté dans le privé?
Parce que j'aime les gens et j'aime ma ville.
Tout simplement.
Tout simplement.
Merci d'avoir été avec nous, vous êtes maire PCF de Grigny dans l'Essonne, et puis on va suivre ce qui va se passer aujourd'hui lors de cette réunion de travail avec le ministre. Merci infiniment.
Et si vous souhaitez réagir à l'actualité, écrivez-nous sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, une baisse d'impôts de 5 milliards, c'est l'une des annonces faites hier par Édouard Philippe lors de son discours de politique générale devant les députés. Qui est concerné? Détail à suivre dans le journal de 8h. Et puis dans une minute, révélation sur l'incendie des locaux d'Universal Studios à Hollywood. Un drame, le jour où la musique a brûlé, nous dira Jean-Philippe Ballas dans quelques instants.
Il est 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Et on va revenir, mon cher Jean-Philippe Ballas, sur cette triste nouvelle. Vous allez nous parler de ces révélations du New York Times avec ces centaines de milliers de chansons originales, des enregistrements qui sont partis en fumée dans un incendie. Ça s'est passé en 2008 à Hollywood, le bâtiment d'Universal, mais on ne l'apprend que maintenant.
Oui, on ne l'apprend que maintenant. Le jour où la musique a brûlé, c'est le titre de cette longue enquête du New York Times. Vous trouvez ça un peu too much? Bah, préparez vos mouchoirs, les amis. Et oui, parmi les bandes originales perdues à jamais, il y a le Rock Around the Clock de Bill Haley. Ce sont les confessions d'un archiviste qui vous dit d'ailleurs qu'on a tous les styles, toutes les époques. On a du jazz avec Ella Fitzgerald, Aretha Franklin et même l'orchestre du grand Duke Ellington. J'adore ce morceau. Alors impossible encore d'avoir la liste précise des 500 000 titres réduits en cendres. Mais bon, si vous trouvez ça un peu vieillot, si vous êtes plutôt rock disons, bah sachez que les flammes n'ont pas fait dans le détail. Et oui les amis, il y a aussi du Nirvana dans ce désastre, du Clapton, du John Bass, du Eminem, du Elton John. Et attention, parce que ces bandes disparues n'avaient pas seulement une valeur sentimentale. Vous allez me dire évidemment, on a des copies numériques,
mais là,
maintenant
on sait faire tout ça.
Ce ne sont plus les masters absolument, Nikos, c'est plus la source, l'origine, c'est plus le son fidèle. C'est un peu comme si vous compariez la Joconde, l'original, avec une simple reproduction. C'est ça qui s'est passé. C'est comme si un musée avait brûlé avec des œuvres inestimables. Alors, on va guetter dans la journée les réactions des principaux intéressés, des artistes, parce qu'ils découvrent, hein, comme vous, en ce moment, l'étendue du désastre de 2008. Une catastrophe cachée par Universal. Bref, vous savez quoi? Ouais, décidément, préparez vos mouchoirs.
Celle-là aussi?
Il y a aussi les Carpenters.
Oh là là, c'est un carnage.
Non mais ça arrive un incendie, on peut pas lutter voilà, contre
c'est
le mauvais moment.
C'est pas compliqué, c'est toute l'histoire de la musique moderne des années 40 à nos jours.
C'est difficile, mais ce qui est terrible et ce qui est triste, c'est de ne pas dire les choses et de le cacher. C'est pas grave, la musique est dans notre cœur. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas, la petite histoire.
À suivre le journal de David Doucan, tout de suite la météo avec Laurent Cabranicos.
Et les images satellites en témoignent, les Allez-y. Pluies sont beaucoup moins nombreuses qu'hier matin à la même heure. Nous avons donc une amélioration très franche avec beaucoup de nuages sur les côtes de la Manche, certes avec quelques gouttes dans le courant de la journée. Il y en aura aussi sur les pays de la Loire, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, le Poitou-Charentes, le Limousin et la région parisienne. Mais partout ailleurs, eh bien, le soleil finira par s'imposer. C'est une amélioration qui se concrétisera dans les jours qui viennent, à savoir que, disons que la chaleur va revenir progressivement durant la fin de semaine et surtout la semaine prochaine, qui s'annonce une semaine dans l'ensemble assez chaude avec des températures qui seront largement estivales.
Merci mon cher Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Et merci de nous avoir choisis en ce jeudi 13 juin. Un très bon réveil, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal est présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Toute l'actualité du jour avec vous.
L'information Europe 1. La passagère impliquée dans l'accident mortel de Lorient a été arrêtée. Elle était recherchée depuis plusieurs jours. Le chauffeur, lui, court toujours pour l'instant. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Honneur aux héros. Hommage national ce matin présidé par Emmanuel Macron en mémoire des 3 sauveteurs en mer qui ont péri vendredi en opération. Un discours de politique générale et de nombreuses réformes. Nous allons payer moins d'impôts. Combien exactement? Et nous allons essayer d'être plus écolo. Page complète dans cette édition. Et puis, cela relève presque du confidentiel défense. Les sujets du bac, comment l'éducation nationale procède-t-elle pour garantir le secret ? Reportage Europe 1 dans un instant.
8h12, Vincent Herouette, accord sur l'immigration avec le Mexique, le gros mensonge de Donald Trump. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara qui reçoit Jordan Bardella, le député européen du Rassemblement National.
Europe 1.
Vous connaissez leur visage, celui du chauffard présumé et de sa passagère. Ils sont soupçonnés d'avoir tué un enfant et blessé grièvement un autre dimanche à Lorient en voulant fuir un contrôle routier. Eh bien, selon nos informations, la jeune femme a été arrêtée cette nuit. Le conducteur reste quant à lui pour l'instant introuvable. Nous rejoignons sans attendre notre envoyée spéciale à Lorient, Hélène Terzian. Que sait-on, Hélène, à cette heure de ces derniers événements ?
Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que la jeune femme de 21 ans a été arrêtée hier soir par les policiers. Aux alentours de minuit, elle a été placée en garde à vue. Après 3 jours de cavale, la passagère de la voiture meurtrière a fini par signaler sa présence à Caudan, une commune voisine de Lorient. C'est là qu'elle s'est laissée interpeller, d'après nos informations. En revanche, vous l'avez dit, le chauffard, responsable présumé de l'accident mortel, reste introuvable. Il est toujours activement recherché. Un peu plus tôt, dans la journée d'hier, les policiers ont découvert la voiture accidentée de la jeune femme avec laquelle, quelques heures avant le drame, le couple avait déjà eu un accrochage. Voilà pourquoi le chauffard de 20 ans a ensuite emprunté la voiture de sa mère. C'est avec ce véhicule qu'il a fauché dimanche les deux petits garçons.
Merci Hélène Terzian, l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Lorient, avec Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. Emmanuel Macron a décidé de célébrer les héros, les 3 sauveteurs en mer qui ont perdu la vie en opération vendredi alors qu'ils portaient secours en pleine tempête à un pêcheur en détresse. Hommage national en présence du président de la République tout à l'heure au Sable d'Olonne. Et depuis vendredi, c'est toute la communauté des marins qui se rassemble, comme hier soir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où était organisée une cérémonie. Reportage François Coulon.
Devant la stèle des péris en mer de Saint-Gilles, une cornemuse poignante en guise d'hommage aux 3 disparus des Sables d'Olonne que tout le monde ici connaissait. Cyril Barrault, patron pêcheur.
Pris au cœur, il n'y a pas d'autre mot. Ils ont été jusqu'au bout de leur mission. Véritables héros. C'est la solidarité maritime, ça. On laisse pas quelqu'un périr en mer. Ces gens-là, ils en ont pris des branlées, comme on dit, dans la gueule. Et celle-là, c'est peut-être celle de trop, pour sauver une vie. Et il faut penser aux rescapés, parce que les rescapés, ça va rester gravé à vie, ça. Et ça va être très difficile de se relever de ce drame. Ils ont tout vécu, ils ont tout vu. Courageux.
Entourant les sauveteurs de la SNSM de Saint-Gilles, endeuillés, la population s'est rassemblée massivement. Martine reste sous le choc.
Ils savaient qu'ils risquaient leur vie, mais ils ont ça dans eux. Ils ont eu énormément de courage. Et c'est ça qui fait mal, d'avoir 3 vies en moins. Ça prend aux tripes, parce que ça fait mal au cœur que 3 hommes qui ont une famille et tout ça. C'est affreux. Je suis bouleversée.
Le maire de Saint-Gilles a évoqué les Sables d'Olonne comme une grande sœur avec laquelle on partage tout. Hier soir, c'est la peine profonde qui a cimenté les 2 cités portuaires voisines. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, François Coulon, Europe.
Le Premier ministre a déclaré l'urgence pour le deuxième temps du quinquennat, l'urgence de réformer.
Les retraites, bien sûr, l'assurance chômage, la PMA pour toutes, procréation médicalement assistée. Mais Édouard Philippe a aussi précisé les choses au sujet des baisses d'impôts. 17 millions de foyers en bénéficieront. Alors, allez-vous être, vous, personnellement, moins taxé ? Élément de réponse avec Anne-Laure Jumet.
Quasiment tous ceux qui payent des impôts aujourd'hui verront leurs factures baisser en janvier prochain, sauf les plus hauts revenus, au-delà environ de 6 000 euros par mois. Les grands gagnants sont les classes populaires et les classes moyennes, avec un gain moyen de 350 euros par an. Selon les calculs de Bercy, un célibataire qui gagne 2 000 euros par mois verra ses impôts baisser de 541 euros par an, soit une réduction de 30%, mais ce sera moins visible pour celui qui touche 1 500 euros par mois. Lui verra ses impôts diminuer de 39 euros. En parallèle, l'entrée dans l'impôt sur le revenu sera lissée pour que ce soit moins brutal pour les personnes qui gagnent un peu plus d'argent et qui se mettent donc à payer subitement l'impôt sur le revenu. A noter que l'effet des baisses d'impôt sera atténué pour ceux qui gagnent entre 2100 et 6000 euros mensuels. Là, le gain ne pourra pas dépasser les 125 euros pour un célibataire.
Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Le Premier ministre a aussi promis une accélération écologique avec notamment la volonté de promouvoir le recyclage grâce à la généralisation du système de la consigne. En clair, vous achetez un pack d'eau minérale et vous rapportez les bouteilles vides au magasin pour être remboursé. Cela existe déjà dans certaines villes et cela marche. Rémi Bossaron.
Ce sont des machines automatiques apparues devant près d'une centaine de supermarchés. Installées par la société Réco, leur principe est simple. Pour une bouteille de plastique insérée, le client reçoit un bon d'achat de quelques centimes. Et ça marche très fort, selon Michel Lebars, directeur du magasin Leclerc de Riantec en Bretagne.
Nous sommes entre guillemets victimes de notre succès. La machine absorbe aujourd'hui des volumes qui n'étaient pas envisagés. Et parfois elle est en panne, ce qui crée une émeute autour d'elle, sachant qu'il y a énormément de clients qui font toutes les semaines entre 25 et 30 km. Pour déposer leur bouteille.
Un succès qui n'étonne pas Jean Hornin, directeur général de Citeo, chargé de promouvoir le recyclage en France. Il le constate chez nos voisins comme l'Allemagne qui ont déjà adopté la consigne.
Les performances dépassent les 90% de taux de retour, sachant qu'aujourd'hui en France, on est à 58% de taux de collecte dans le bac jaune. La différence, c'est que la France a constitué un système de centres de tri. Les bouteilles n'iraient plus dans ces centres de tri. Ça changerait ce dispositif industriel. Donc c'est une concertation assez vaste qu'il faut entreprendre. Parce que ce serait un bouleversement pour la France.
Un bouleversement qui pourrait permettre d'atteindre l'objectif européen de 90% de collecte des bouteilles en plastique d'ici 10 ans.
Rémi Bostaron pour Europe 1. Édouard Philippe, vous le savez, a obtenu la confiance de l'Assemblée nationale. 363 voix pour, 163 contre et 47 abstentions. Ce sera sans doute différent aujourd'hui devant le Sénat, contrôlé par l'opposition de droite. Mais le vote des sénateurs n'engage pas la responsabilité du gouvernement. Passage de relais à la tête de l'opération Pièce jaune. Brigitte Macron succède à Bernadette Chirac à la présidence de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. C'est Madame Chirac qui a proposé le nom de l'actuelle Première Dame.
Europe 1.
À suivre dans le journal de 8h, le bac qui commence lundi. Les sujets sont en train d'être acheminés vers des centres d'examen. Vous allez voir les techniques pour garder le secret. Eh bien, on n'a rien à envier au confidentiel défense. Hein. Du top secret. À tout de suite.
Il est 8h09, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan. Le bac, c'est à partir de lundi. Reportage Europe 1 avec ceux qui ont pour mission de garder le secret.
Oui, vous allez voir qu'on n'est pas loin des techniques des agents de renseignement. Virginie Salmen a pu assister au parcours d'un sujet, départ du rectorat de Strasbourg, direction le centre d'examen.
Le sujet sort d'une énorme imprimante sur une feuille A4. Il est aussitôt mis sous pli dans une enveloppe inviolable en plastique blanc. Ça, c'est le travail de Janine.
On prend un sujet, que ce soit anglais LV1, et là, on s'y attelle et on en a pour une journée, voire 2 jours ou 3 jours. Ça dépend le nombre de candidats.
Donc juste pour l'anglais, 2-3 jours.
Oui.
En tout, ça vous prend combien de temps?
À plusieurs, 2 bons mois.
Pour 300 sujets au total. Alors Janine, ça n'est pas son vrai prénom. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, c'est la culture du secret.
On essaye de ne pas dire à l'extérieur où on travaille. Surtout aux jeunes.
Pour ne pas avoir de pression?
Voilà, c'est ça.
Vous êtes comme des agents secrets, finalement.
C'est un peu ça. On a tout à fait le rôle.
Deuxième étape, un proviseur emporte en camionnette électrique les cartons de sujets jusque dans son lycée. Monsieur Guetoucha les recompte minutieusement pour s'éviter un gros stress lundi matin. Puis, il les met sous clé.
Alors, il est où ce coffre-fort?
Alors, il est là, juste au fond, là, légèrement caché. Il existe seulement 2 clés sur l'établissement et une combinaison que seules 3 personnes connaissent.
Tous les sujets sont sous clé et on les ouvrira donc lundi matin.
Strasbourg, Virginie Salmen, Europe 1.
Cyclisme, Chris Froome qui est forfait pour le Tour de France.
Oui, le champion britannique a été victime d'une terrible chute hier alors qu'il reconnaissait le parcours du contre-la-montre du Dauphiné. Il souffre de plusieurs fractures, dont une ouverte du fémur. Coupe du monde de football, les Bleus ont un pied en 8e de finale après avoir vaincu la Norvège 2-1. Prochain match pour les Françaises lundi à 21h face au Nigeria et cela se passera à Rennes.
Elles n'ont rien lâché les filles, elles sont courageuses. Bravo, on est très impressionnés. C'était le journal de 8h présenté par David Doucan.
Et on attend vos réactions sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 8h11, Nikos, coup d'œil à l'actualité internationale comme chaque matin avec Vincent Hervouette.
Cher Vincent Hervouette, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour. Donald Trump face au défi de l'immigration, ça a été son cheval de bataille et de campagne aussi, il ment. Visiblement, mais il impose sa volonté à ses voisins mexicains.
Alors, il y a des mensonges énormes, si gonflés qu'ils suscitent une forme d'admiration, faut oser, on se dit. Et hier, il fallait voir Donald Trump fouiller dans sa veste, en tirer une feuille de papier pliée en deux, la brandir en jurant qu'il s'agit d'une clause secrète à l'accord qu'il vient de passer avec le Mexique sur l'immigration, la remettre dans sa poche en narguant les journalistes, puis de nouveau l'exhiber au nez des caméras comme la preuve qu'il a obtenu un accord très, très puissant, comme il dit. Mmh. Il ne parle plus de faire payer aux Mexicains le mur qu'il n'a toujours pas construit, mais il leur a imposé de garder leurs frontières, menacé d'augmenter à mort les droits de douane à payer, CQFD. Alors, sur le gazon de la Maison-Blanche, le président plastronnait. Sous le soleil, le Donald rutilait, mais comme il tenait son papier à contre-jour, il a suffi de zoomer pour le déchiffrer par transparence et voir qu'il n'y avait qu'une seule ligne. Elle prévoit de faire le point avec les Mexicains au bout de 45 jours. Ce qu'il brandit, c'est pas une clause secrète, c'est la clause de revoyure qu'on connaissait déjà. Faut oser. Le New York Times s'est indigné.
Parce qu'aux yeux du monde, Donald Trump a bel et bien menti. D'ailleurs, le Mexique a démenti.
Alors, son ministre des Affaires étrangères, le ministre mexicain, jure qu'il n'y a pas de clause secrète, mais il refuse de dire ce qui est prévu dans 45 jours si la poussée des clandestins ne faiblit pas, si l'envoi de 6000 hommes à la frontière du Guatemala ne suffit pas à bloquer les caravanes de migrants. Oui. Le diplomate fait des phrases, Donald Trump fait son show et on comprend qu'on saura la vérité dans un mois et demi. Que le gouvernement mexicain a 6 semaines de sursis pour préparer son opinion publique. À terme, il devra réformer un droit d'asile qui est bien trop généreux. Le plus menteur de tous est peut-être le New York Times. Le journal vient de consacrer une enquête aux latinos qui préfèrent traverser l'Atlantique plutôt que le Rio Grande. Mmh. Le billet pour Madrid avec quelques nuits à l'hôtel coûte 2 000 $ quand les passeurs pour le Texas en réclament 8 ou 10 000. Gagner l'Europe en jouant les touristes est moins risqué, moins cher et on est mieux accueilli. Il n'y a pas besoin de visa et on peut obtenir le statut de réfugié. Ouais. À lire le journal, on croit à une invasion. On regarde les chiffres, ils sont dérisoires. Il y a des mensonges par action. C'est Trump, par omission, le Mexicain. Et les pires, les mensonges par indignation. Les journalistes sont comme les enfants, qui racontent tout le temps des histoires, mais qui sont scandalisés par le mensonge des adultes.
Mais vous, c'est bien connu, mon cher Vincent Hervouette, vous dites toujours la vérité.
Je ne mens jamais, je vous jure.
C'était l'édito international, vous êtes pardonné.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Restez avec nous dans 2 minutes, l'interview politique avec Audrey Crespo.
Vous croyez quand il vous dit qu'il ne ment jamais? Faut
évidemment pas,
pas,
évidemment pas.
jamais.
Mais il a l'art de la rhétorique, il le fait bien.
C'est vrai.
Bonjour ma chère Audrey.
Avec talent. Bonjour Nikos,
qui
bonjour
est votre
à tous.
Invité aujourd'hui?
Eh bien écoutez, il est en direct de Bruxelles où il fait ses premiers pas de député européen et d'où il réagira au discours de politique générale du Premier ministre hier. Jordan Bardella, député européen du Rassemblement National, sera mon invité.
A tout de suite.
Il est 8h17, Nikos Aliagas.
Le député européen du Rassemblement National, Jordan Bardella, est votre invité Audrey Caspomara.
Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. On va en parler dans un instant. Bon, on imagine que vous n'auriez pas voté la confiance au gouvernement, mais dans le discours de politique générale du Premier ministre hier, rien ne trouve grâce à vos yeux, vraiment ?
Le problème, c'est qu'on a un peu l'impression d'entendre la même chose tous les 6 mois. Tous les 6 mois, ils nous expliquent, ce gouvernement en l'occurrence, qu'ils ont compris le malaise aujourd'hui dans notre pays, qu'ils ont compris l'hyperfiscalité qui aujourd'hui asphyxie nos chefs d'entreprise, nos classes populaires, nos classes moyennes, qu'ils ont compris les besoins en matière d'ordre, s'agissant de la question de la sécurité et de l'immigration. Or, tous les 6 mois, on en vient à faire le même constat, rien ne bouge.
Alors,
ce gouvernement a été désavoué dans les urnes il y a quelques jours. On a un peu l'impression qu'ils ne veulent pas en tenir compte et il serait peut-être temps qu'ils en tirent les conséquences.
Prenons des mesures précises, Jordan Bardella. En mars, Marine Le Pen proposait une baisse de 10% sur les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu. Le Premier ministre annonce une baisse pour les 2 premières tranches et si on fait le calcul, il va même au-delà de votre baisse de 10%. Vous dites bravo à Édouard Philippe ?
Je dis que aujourd'hui, il est temps de décréter la paix fiscale dans un pays qui est le champion du monde de l'impôt, des prélèvements obligatoires en l'occurrence. Maintenant, s'il s'agit, si vous voulez, de donner de la main gauche ce qu'on va reprendre en double de la main droite, ça me pose un problème parce que d'abord, cette baisse de la fiscalité sera financée par une augmentation d'impôts sur les chambres d'entreprise. Il faut le dire clairement.
Alors,
suppression de certaines niches d'emploi dans notre pays. Et puis, en même temps, moi, j'ai le sentiment d'un décalage absolument terrible entre le discours et les actes, parce que nos patriotes voient l'essence augmenter, son niveau de prélèvement des taxes sur l'essence est complètement délirant, le plein de carburant vous coûte plus cher qu'il le coûtait au mois d'octobre, ils ont vu l'électricité augmenter de 5% au 1er juin, le caddie de course augmenter de 5%, et tout ça sont la conséquence de lois qui ont été mises en place par le gouvernement, et par ailleurs ils entendent que on pourrait remettre en cause les pensions de reversion, qu'on pourrait leur demander de travailler davantage avec ce fameux en même temps sur l'âge de départ.
La réforme
donc
des
en fait, il y a un décalage
Bardella.
Absolument terrible entre ce qui est dit et ce qui est fait.
La réforme des retraites. Le Premier ministre a répété que pour équilibrer le système des retraites, il était nécessaire d'inciter les Français à travailler plus. Vous dites au contraire qu'ils doivent travailler moins en vivant plus longtemps.
Non, mais je dis que c'est un numéro, si vous voulez, absolument incroyable.
Vous dites retraite à 60 ans.
Non, je dis départ à 40 annuités pleines, avec un départ à l'âge légal, et éventuellement, évidemment, de 60 ans. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on ne touche pas l'âge de départ à la retraite. Mais si vous voulez toucher l'intégralité de votre pension retraite, il faudra travailler plus longtemps. Donc, il faut juste le dire. Voilà, il faut être très clair devant les Français. Emmanuel Macron, il avait pris un engagement pendant l'élection présidentielle qui était celui de ne pas toucher à l'âge de départ légal à la retraite. Et on apprend après les élections européennes qu'en réalité, ils vont évidemment y toucher. Moi, je dis que...
Les syndicats, Jordan Bardella, vont certainement se mobiliser contre la suppression des régimes spéciaux de retraite. Vous plaidez pour leur maintien ou pour leur suppression ?
Je pense qu'il faut regarder au cas par cas, mais s'agissant de la question des retraites, compte tenu du système français, du système qui est nôtre, il faut relancer la machine économique. Et vous ne pourrez pas, si vous voulez, résoudre le déficit des retraites et la question des retraites si vous ne recréez pas l'emploi dans notre pays.
Mais sur les régimes spéciaux, quelle est la politique du Rassemblement National ? Vous êtes pour le maintien des régimes spéciaux ?
Il faut regarder au cas par cas, mais je ne crois pas que ce soit une priorité aujourd'hui. Je vous dis, en matière de retraite, je pense qu'il faut recréer l'emploi dans notre pays. Et ça, évidemment, on n'a pas entendu grand-chose de la part du gouvernement, qui bénéficie pourtant d'un regain de la croissance qui est lié au contexte international. Il faudrait peut-être en profiter. Maintenant, moi, quand j'entends effectivement un certain nombre d'annonces du gouvernement qui voudraient mettre notamment un certain nombre de traités de libre-échange à l'ordre du jour, quand j'entends, comme le CETA par exemple, quand on entend le lendemain des élections européennes la suppression de centaines d'emplois, notamment à General Electric, de plans sociaux chez Carrefour, je me dis qu'on est quand même relativement loin du compte.
Jordan Bardella, autre sujet sensible, la réforme de l'assurance chômage. Donc le gouvernement veut pénaliser les entreprises qui abusent des contrats courts, j'imagine que vous êtes pour. Pour faire des économies, le gouvernement a décidé de cibler les cadres. En effet, au-dessus d'un certain montant, les indemnités chômage seront dégressives. Mettre les plus riches à contribution, c'est la solution ?
Oui, alors pour l'instant, on n'a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a une orientation, je veux dire, lutter contre les abus et contre les fraudes notamment, on y est évidemment favorable. Il ne s'agit pas, si vous voulez, d'avoir un système qui pénalise ceux qui travaillent et qui permettrait de donner beaucoup à ceux qui sont au chômage. Mais je crois qu'on n'en est pas là. On a un peu le sentiment, enfin Emmanuel Macron l'avait dit pendant la campagne présidentielle, il avait dit « je ne toucherai pas à la dégressivité des allocations chômage parce que je ne veux pas pointer du doigt
l'occurrence
des chômeurs ».
Ce sont les plus hauts revenus là qui sont concernés.
On a un peu l'impression qu'on cible davantage les chômeurs que le chômage. On en revient à ce que je vous disais juste avant.
Qui est au plus
maintenant,
bas depuis
10 ans. Dans ce système. Oui, d'accord. Enfin, moi, je crains dans ce système qu'on ouvre la voie, si vous voulez, à une privatisation à terme de l'assurance chômage. Parce que, évidemment, en déconnectant les cotisations qui ne seront pas plafonnées et les indemnisations liées, les cadres pourraient évidemment se tourner vers peut-être le choix de l'assurance privée. Et ça, je ne crois pas que ça aille dans le bon sens. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose de chiffré sur cela. Mais moi, je dis ciblons le chômage plutôt que de cibler les chômeurs.
Jordan Bardella, venons-en à votre principale préoccupation, l'immigration. Le président a reconnu hier que le nombre de demandeurs d'asile baissait partout en Europe, sauf en France. Ça vous rassure qu'ils disent clairement les choses ?
En même temps, quand vous êtes face à la vérité, parfois c'est difficile de la nier. On sait très bien qu'ils ont découvert un peu la pauvreté avec les gilets jaunes, l'écologie avec le carton des verts aux élections européennes, et probablement la question de l'immigration avec notre victoire. Donc l'immigration est une préoccupation majeure. Je note qu'encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, tous les 6 mois, ce gouvernement vient devant les Français pour nous expliquer qu'ils prennent des mesures sur la sécurité, sur l'immigration. Or, ce gouvernement est le champion national de l'immigration et qu'il a battu absolument tous les records. A communiqué cette semaine les chiffres des demandes d'asile. Et c'est vrai que l'asile est aujourd'hui en augmentation dans notre pays et que tout est fait, en l'occurrence, pour continuer d'avoir un système attractif.
Plus de contrôle.
Qu'il faut couper le robinet des prestations sociales qui sont distribuées à droite, à gauche, et notamment à des gens qui n'ont pas la nationalité française. Je pense que c'est la première des économies de bon sens à effectuer dans notre pays.
Désormais, il y aura un débat sur l'immigration organisé chaque année à l'Assemblée nationale. Le premier aura lieu en septembre. Est-ce que ça pourrait être l'occasion de passer des alliances avec des députés Les Républicains pour vous ?
Et le problème des Républicains, si vous voulez, c'est que ils ont le même discours que nous lors des campagnes électorales et ils votent exactement l'inverse. Quand on a proposé à plusieurs reprises, lors de cette mandature, mais aussi lors de la mandature précédente à l'Assemblée nationale, de supprimer par exemple l'aide médicale d'État, c'est-à-dire l'ensemble de la palette de soins qui est offerte gratuitement aux clandestins dans notre pays, aux étrangers en situation illégale, les Républicains n'ont pas voté cet amendement. Et c'est vrai sur un certain nombre de sujets. Moi, j'ai entendu les LR pendant la campagne électorale. des élections européennes nous expliquer qu'il fallait arrêter de relocaliser des migrants dans les villes et dans les villages français, il n'y a qu'un malheur, c'est que ce sont exactement eux, ces députés, les députés LR, qui l'ont voté au Parlement européen. Donc moi je dis notamment aux électeurs de droite, sincères, qui partagent ce constat qu'aujourd'hui il est temps de mettre fin à l'immigration dans notre pays, qu'il est temps de couper le robinet des aides sociales qui sont versées à droite à gauche à l'ensemble des étrangers dans notre pays, et notamment des personnes en situation régulière, de venir à nos côtés. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas besoin d'un débat sur la question de l'immigration. Toutes les études d'opinion nous disent que les Français ne veulent plus accueillir une immigration supplémentaire, et compte tenu de la situation économique, sociale, et même des tensions communautaristes qu'il existe dans un certain nombre de quartiers, on ne peut évidemment qu'être d'accord.
Jordan Bardella, une dernière question. Ce matin, vous êtes en direct de Bruxelles, où vous faites vos premiers pas de député européen. Pendant la campagne, vous annonciez la création d'un groupe nationaliste capable de peser au Parlement européen. Finalement, ni le Hongrois Orban, ni l'Anglais Farage, ni le parti au pouvoir en Pologne n'ont accepté de vous rejoindre. Ça ne risque pas de limiter un peu votre influence ?
Absolument pas, parce que nous sommes le groupe qui connaissons la plus grosse percée au sein de ce Parlement européen. Nous étions le 8e groupe, nous passons aujourd'hui 4e groupe,
quasiment ex aequo avec les Verts.
Oui, écoutez, la porte leur est de toute manière et leur sera de toute manière toujours ouverte. Maintenant, ce qui compte, si vous voulez, au-delà des histoires de groupes parlementaires au sein de l'hémicycle, c'est la politique qui va être portée par ces différents partis, même issus de groupes différents, de tous ces partis souverainistes, ces partis du bon sens. Et il est clair que sur des questions aussi fondamentales que les questions d'immigration, que les questions de libre-échange qui aujourd'hui sont une véritable préoccupation pour nos entreprises et nos agriculteurs, qu'on se retrouvera dans les votes avec l'ensemble de ces partis. Et même M. Juncker d'ailleurs l'a reconnu, le président de la Commission européenne, il y a quelques jours, en disant que les souverainistes allaient avoir un impact majeur au sein de cet hémicycle. Et nous, évidemment, avec l'ensemble de nos alliés, nous souhaitons porter la voix des peuples et l'intérêt des nations au sein de ce Parlement à Bruxelles, où nous sommes aujourd'hui pour la première fois.
Merci Jordan Bardella.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale. Merci à notre correspondante Isabelle Horry pour la réalisation de cet entretien en direct de Bruxelles.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol. L'essentiel de l'info aussi à 8h30. La revue de presse de David Abiker. Et à 8h35, le journal de la Coupe du Monde féminine de foot avec Jérôme Lacroix. Tout de suite.
L'essentiel de l'actualité et tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
On vous attend avec impatience, Laurent Cabrol.
Alors... avec une petite hausse de température, vous pouvez m'attendre avec impatience.
On la prend.
Vous la prenez ? 31 à Ajaccio. Là, ils sont gâtés depuis quelques temps parce qu'il y a le fameux Sirocco, on en parle souvent ici. 27 à Marseille et à Castres, 26 à Toulouse et Clermont-Ferrand et Lyon, 24 à Nice et Vichy. Non, Nancy. 23 à Bourges, Bordeaux, Strasbourg, Épinal. 21 à Paris, c'est pas mal, à Niort et Poitiers. À Vertoux, en Loire-Atlantique, 20 degrés. 19 à Rennes et Lille, 18 à La Rochelle et 17 à Vannes. Voilà pour les températures qui ont pris une petite bouffée par rapport à hier. Mm-hmm. Ça ne fait que commencer. La bouffée de chaleur va se poursuivre lentement mais sûrement, au point que la semaine prochaine nous aurons quand même un temps réellement estival. Alors en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, près de la Manche, ce seront des nuages avec des éclaircies et encore quelques averses sur Paris, sur la Bourgogne, sur la Lorraine, le Poitou-Charente, le centre, sur le Pays Basque, sur le Pays de la Loire. Sur les Pays de la Loire, là, nous aurons des éclaircies à égalité avec des passages nuageux. Il y aura quand même quelques gouttes dans ces régions. Sur Paris, je pense qu'il y aura quand même quelques averses. Elles sont beaucoup moins nombreuses qu'hier. Du soleil, en revanche, sur tout le sud-ouest, l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes et le bassin méditerranéen.
Merci.
Voilà, belles vacances à ceux qui en prennent. Et puis, bonne journée aux autres.
On est là. Et à demain, à tout à l'heure plutôt, c'est pas terminé. Merci Laurent Cabrol.
7h, 9h. 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le jeudi 13 juin, toute l'actualité à 8h30 avec vous, Nikos Aliagas.
Europe 1, vous le révélez à 8h, la passagère du chauffard de Lorient a été arrêtée hier soir. Elle est en garde à vue. En revanche, le jeune homme qui a renversé les deux enfants est toujours en fuite. Emmanuel Macron attendu en fin de matinée au Sable d'Olonne. Le chef de l'État préside la cérémonie à la mémoire des trois sauveteurs bénévoles décédés en tentant de porter secours à un pêcheur. Après les députés, les sénateurs, le Premier ministre Édouard Philippe, qui a obtenu la confiance de l'Assemblée, prononce un discours ce matin devant le Sénat, contrôlé par l'opposition de droite. La ministre de la Justice veut établir un seuil d'irresponsabilité pénale à 13 ans, annonce du journal La Croix ce matin. Nicole Belloubet souhaite que les délinquants de moins de 13 ans ne risquent plus de poursuites pénales. Et puis, coup dur pour le quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome. Le Britannique souffre de plusieurs fractures après une violente chute à l'entraînement. Il est forfait pour la grande boucle cet été.
Il est 8h32, Nico. C'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker.
Bonjour David.
Bonjour Nico, bonjour Céline, bonjour à tous.
À la une ce matin, des femmes sur le terrain et un Premier ministre sur le terrain des femmes.
Alors les femmes sur le terrain, c'est la une de l'équipe qui célèbre la victoire au mental des Bleus, cette équipe de France féminine de football qui l'a emportée hier 2-1 face à la Norvège. Mais que nous dit l'Obs cette semaine? Que le foot féminin ne se résume pas aux performances des Bleus. L'hebdomadaire les a rencontrées, ces filles qui ont voulu faire du foot envers et contre tous au masculin. Hein. Annie Fortem, 63 ans, ex-joueuse de première division, se rappelle des cris dans les gradins à ses débuts, quand les filles débarquaient sur le terrain. Retourne à la cuisine, occupe-toi des gosses. La classe. S'occuper des gosses, c'est un peu ce qu'a fait hier le Premier ministre en s'aventurant lui sur le terrain des femmes, puisqu'il a annoncé que le projet de loi sur la procréation médicalement assistée pour toutes serait examiné en septembre. Pour le Figaro, c'était pas une priorité. Pour l'opinion, le gouvernement a dragué la gauche. Pourtant, Bruno Diff de Sud-Ouest estime ce matin que la PMA pour toutes, y compris les femmes en couple, reste la plus spectaculaire des annonces formulées hier par le Premier ministre.
Enfin, une PMA en avant, titre le journal Libération.
Et c'était pas gagné, explique Libération. Depuis un an, on attendait ce projet sans cesse retardé. Et puis, c'est le bon moment. La droite conservatrice, après sa déconvenue aux européennes, aura du mal à être audible sur le sujet. Pourtant, Libération s'interroge. Quid des autres sujets bioéthiques? Il y en a plein. Le dépistage génétique, les greffes d'organes, les big data en santé. Ouverture ou conservatisme? Comme si la PMA risquait de devenir la seule avancée sociétale du quinquennat. Dans Le Point, le professeur Moutel, spécialiste de bioéthique, répond à trois arguments contre cette fameuse PMA pour les couples de femmes. D'abord, le désir d'enfanter est un droit fondamental, dit-il, et rien ne prouve qu'être élevé par deux femmes est préjudiciable à l'enfant. Deuxième objection, la médecine doit-elle se mêler de procréation quand il n'y a pas de pathologie? Le médecin répond qu'aujourd'hui, la médecine ne fait pas que soigner. Elle aide les gens à vivre mieux. Enfin, la PMA, c'est la porte ouverte à la GPA, disent les détracteurs de cette PMA. Réponse du professeur, il faut amorcer sur ce sujet un débat bioéthique sur des éléments humains sans faire de l'idéologie et du clivage. Le clivage, on va le retrouver, Nikos, au Sénat, sur un sujet qui concerne aussi le corps des femmes.
L'allongement du délai autorisé pour pratiquer une IVG.
Nouvel imbroglio sur l'allongement des délais pour avorter, titre le Figaro. Et pour cause, vendredi, un amendement de l'ancienne ministre de la Famille et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, est adopté au Sénat et porte de 12 à 14 semaines le délai légal pour pratiquer une IVG, ce qui éviterait à plusieurs milliers de Françaises de le pratiquer chaque année à l'étranger. Mais hier, au Sénat, la commission des affaires sociales, présidée par le sénateur Les Républicains Alain Milon, a demandé et obtenu une seconde délibération. Résultat, le Sénat botte en touche sur ce sujet jusqu'à l'automne. Un incident qui montre que les conservateurs ont les deux pieds sur le frein sur ces questions. Mais c'est sans comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Et on lira les quatre pages que consacre Libération au recul du droit à l'avortement en Amérique. Sur le sujet de la natalité, on lira aussi et encore Le Point qui pose cette question rigolote. Faut-il arrêter de faire des enfants? C'est le refrain qui monte dans les milieux écologistes au point que deux chercheurs suédois ont calculé que renoncer à enfanter permettrait d'économiser 58 tonnes de dioxyde de carbone quand renoncer à la bagnole n'en fait gagner que 2,5. Mais le désir d'enfant et puis surtout l'amour ont leur raison que la raison ignore. L'amour, un autre sujet pour le biologiste François-Xavier Dechaux-Montcharmont, dont les équipes viennent de démontrer qu'une certaine variété de petits poissons d'eau douce, du nom d'Amatite lania sicchia, développe une forme de cafard quand on les sépare. Comment les chercheurs l'ont-ils démontré? Je vous la fais courte, tout est dans le Figaro. Ils ont testé la réactivité des poissons en couple, puis ont séparé les femelles des mâles. Eh bien, une fois éloignés de leur partenaire, les poissons femelles n'ont pas les mêmes facultés de jugement, d'adaptation et d'enthousiasme que celles qui sont restées avec l'élu de leur cœur. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, disait Lamartine, cité par le Figaro. Pour un poisson, ça s'appelle toucher le fond.
Bravo. La revue de presse présentée par David Abiker sur Europe 1.
Il est 8h36, c'est l'heure du journal de la Coupe du Monde féminine de foot. Europe 1 est la radio officielle de la compétition et ce journaliste avec Jérôme Lacroix comme chaque matin.
La Coupe du Monde féminine.
L'événement foot est sur Europe 1.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin.
Mental haut pour les Bleus, victorieuses des Norvégiennes à force de détermination. Les Françaises qui en sont à deux matchs, deux victoires, un crampon trois quarts en huitième de finale et une cote de popularité toujours au top.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
taille patronne. Les Bleus, elles passaient le test Norvège, le plus relevé du premier tour. Ça a été dur, mais c'est passé pour la France. Succès 2-1 dans les gradins du Stade de Nice. 35 000 spectateurs, tribune comble, supporters comblés, tout comme ces autres fans qui ont eux suivi la rencontre dans un bar niçois.
Les Françaises ont été supérieures individuellement, techniquement.
On compte sur elles pour aller loin.
Tout le monde suivait, tout le monde était à fond, c'était incroyable.
On sent qu'il y a un bon esprit d'équipe, elles se complètent bien l'une avec l'autre. Elles ont quand même su gérer la difficulté, elles se sont très bien débrouillées.
Allez la France.
Les Bleus, ouais. Des Françaises premières de leur groupe de qualification après 2 matchs sur 3 au premier tour, 6 points. Il faudra un ouragan à Nikos avec triple effet papillon pour qu'elle ne se qualifie pas en 8e de finale.
Et ce France-Norvège hier, c'est aussi la drôle histoire de Wendy Renard.
La puissante défenseuse, double buteuse au match d'ouverture, elle a marqué hier soir un but contre son camp sur un dégagement mal assuré, un geste fruit de la pression qui l'a bouleversée.
C'est vrai, dans ces situations-là, vous vous sentez seul en fait, même comme une conne limite. mais après, les coéquipières ont été là pour moi et c'est ça qui me permet de garder les pieds sur terre parce que je m'enflamme pas en fait.
La modestie de Wendy Renard. Et avant ce but contre son camp, c'est l'attaquante Valérie Gauvin qui avait ouvert le score pour les Bleus après seulement 44 secondes de jeu en seconde période. Elle qui avait été punie, laissée remplaçante au match d'ouverture pour être arrivée en retard à des entraînements.
Un chiffre à retenir ce matin. C'est 76.
C'est le total des buts en bleu de l'attaquante Eugénie Le Sommaire. Elle chasse les 81 buts, qui est le record de Marinette Pichon, l'ancienne joueuse. Le Sommaire a conclu hier, marquant le but victorieux pour la France sur un pénalty accordé après recours à l'assistance vidéo à l'aube du dernier quart d'heure. Dénouement, oui, tardif, mais heureux et à force de labeur, se félicite justement Eugénie Le Sommaire.
Il faut parfois passer par des moments difficiles pour aller loin dans la compétition. Aujourd'hui, on apprend encore. Il faut se servir de ça. L'équipe a eu du caractère, a eu du mental pour revenir et c'est ça qu'il faut retenir.
Allez, maintenant, direction Rennes pour le dernier match du premier tour. Lundi, un nul suffira face au Nigeria pour assurer la première place du groupe. Ces Nigérianes qui ont battu hier 2-0 les Sud-Coréennes. C'est une surprise. Également hier, 1-0 pour l'Allemagne face à l'Espagne.
Et la joueuse qu'il faut suivre aujourd'hui est brésilienne.
À Australie-Brésil, 18h, on suivra Christiane, l'attaquante du Brésil, qui a su dire adieu à ses démons frappés par la dépression il y a 3 ans. Elle ne mangeait plus, ne sortait plus, ne jouait plus au foot. Revenue au plus haut niveau, elle a déjà marqué 3 fois dans ce mondial, un triplé dès le premier match.
Brésil ! Merci Jérôme Lacroix.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il arrive, Nicolas Canteloup. Vous l'attendez avec impatience, la revue de presse. Et dès qu'elle s'installe dans le studio, Julie, accompagnée d'un dictionnaire qui pèse 15 kilos, on se dit que le... Vous avez toujours un dictionnaire bien lourd. Hein.
Oui, c'est plus facile à vérifier que sur Internet.
C'est vrai, vous trouvez
les mots, les expressions, tout ça.
Voilà, vous avez raison, c'est votre façon de travailler. Nicolas Canteloup arrive, les amis. A tout de suite.
Il est 8h42.
Ne vous inquiétez pas, installez-vous confortablement. Oui, restez calme, ça va bien se passer. Non, je vous assure, ça va bien se passer. Ouvrez grand. Oui, les oreilles. Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presque.
C'est presque de l'info, c'est la revue de Nicolas Canteloup. Bon, vous l'avez entendu. Comme chaque matin, on va retrouver Nikos pour le titre principal de l'actu.
Ouais. Ouvrez grand les oreilles, surtout ouvrez grand votre poste. N'oubliez pas, parce que sinon ça ne marche pas. Voilà ma chère Julie, bonjour à tous. Je suis tellement heureux d'être avec vous, cette belle équipe d'intervieweurs. Audrey Crespo-Mara, une brillante interview de Jordan Bardella qui a...
S'il vous plaît, monsieur Gage, madame Julie... j'ai entendu madame Mara. J'aimerais qu'elle se méfie tout de même, n'est-ce pas?
Marine Le Pen, bonjour. Vous n'avez pas apprécié les questions pointues d'Audrey Crespo-Mara?
Non, attendez, s'il vous plaît, pour qui se prend-elle? Prendre 10 minutes en tête-à-tête avec Jordan? Oui, écoutez, j'ai entendu une question. Et comment allez-vous? Ce résultat aux européennes, vous êtes content? Écoutez, madame Mara. Jordan n'est pas là pour que vous le dragouilliez en minaudant. Il est là pour défendre le Rassemblement National, ses idées, son discours, sa présidente au passage dans vos en déplaise, avec des arguments solides, des dents blanches, des deltoïdes musclés, des biceps vigoureux. Ah, Jordan voilà, on se calme. Ouais. Merci, il y a des jeunes qui écoutent. Ici, on n'est pas sur la radio officielle des Cougars en mode baraque à frites. Okay. Allez, à vous, Julie.
Merci, Nikos. Hier, Édouard Philippe a donné son discours de politique générale pour lancer l'acte 2 du quinquennat qui doit être source de profonds changements. Alain Juppé, bonjour.
Oui.
Comment vous avez trouvé celui qu'on définit volontiers comme votre héritier politique?
Écoutez, comment j'ai trouvé Édouard, mon doudou, comme je l'appelle dans l'intimité? Eh bien, je l'ai trouvé bien, très bien. J'ai trouvé rigide, soporifique, juste chiant ce qu'il faut. Non, on voit qu'il a retenu mes leçons. Et puis vous avez vu, il lance un acte 2.
Oui.
Les gilets jaunes en sont à l'acte 238, il n'y a rien qui change. Édouard lui en peine en deux actes et pouf, tout va changer. C'est l'efficacité
Alors,
redoutable d'Édouard.
Oui, on voulait vous avoir ce matin pour une raison précise, c'est cette réforme des retraites.
Réforme des retraites, c'est pour ça que vous m'appeliez.
Oui. Très bien.
Oui, bon, dites les choses, vous savez, ne vous cachez pas derrière votre petit doigt, je suis votre consultant troisième âge, c'est ça, hein, Europe 1, la radio officielle des gravataires,
c'est non, ça. Mais non, mais ne vous vexez pas, c'est juste que vous connaissez bien le sujet d'abord. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la mesure qui a été annoncée? Pas de recul de l'âge légal de la retraite, 62 ans, mais des mesures pour inciter à continuer de travailler, ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, écoutez, prenons un exemple. Admettons que vous ayez un métier pénible.
Oui.
Je ne sais pas, vous êtes par exemple homme politique.
Oh. C'est ça, oui.
Vous travaillez, vous prenez une branlée, puis une autre, et ainsi de suite. Mais passé 62 ans, c'est vrai que ça commence à devenir répétitif et pénible. Donc vous aimeriez, de façon légitime, partir à la retraite loin de ces têtes de nœuds de français. Bref, l'État pense que vous pouvez encore servir. Alors on vous incite, voilà, c'est l'incitation, on vous incite à aller au Conseil constitutionnel. Où vous pouvez continuer à cotiser tout en travaillant de façon, disons, plus relaxe, puisqu'il s'agit de... grosso modo, de faire du babysitting avec des vieux qui sentent la naphtaline et les médicaments.
Oh là 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 là,
voilà
là
à peu près comment ça marche.
Bon, on va en rester là. Hein. Merci, monsieur Juppé. Le gouvernement conserve donc l'âge de départ à la retraite, 62 ans. Mais si on le souhaite, on pourra travailler plus tard. Hein. C'est
non,
ce qu'on a
écoutez,
compris.
Non, écoutez, je m'inscris en faux. Si on le souhaite, on pourra travailler plus tard. Mais c'est totalement faux. Pardonnez-moi d'être trivial, mais c'est des conneries. C'est du flan. C'est n'importe nawa, comme disent les jeunes.
Gérard Collomb, vous êtes très remonté, dites-donc ce matin, qu'est-ce qu'il y a?
Écoutez, je vous entends dire que le gouvernement vous permettra, nous permettra de travailler après 62 ans. Je le redis, ce n'est pas vrai, j'en suis la preuve vivante. Si vous avez dépassé 62 ans, mais on vous fout dehors, le gouvernement vous met dehors, vous êtes pourtant motivé pour travailler en équipe, vous vous dites que vous avez encore de l'énergie à revendre, de l'amour à offrir. Eh bien non, on vous remplace par un jeune crétin qui n'a rien d'autre à offrir que ses muscles, son sourire d'abruti et sa barbe de trois jours.
Ça non, franchement. Jour. Mais dites-moi, personne vous a mis dehors, vous. C'est vous qui êtes parti.
Oh, écoutez, j'ai bien... Écoutez, je suis lucide. J'ai bien senti que je gênais. Oui, oh, il dérangeait le vieux. C'est ça? Non, écoutez, je peux encore travailler. Vous savez, on n'est pas fini quand on a à peine 96 ans. Et, vous savez, on a encore du peps. On peut encore croquer la vie à pleines dents. Croquer dans une pomme. Enfin, une compote de pomme. Est-ce que vous pouvez m'aider, Mme Dacosta, à remettre mon dentier?
Ça va mieux?
Oui, merci pour la colle, monsieur. Vous voyez, je ne suis pas fini. Je le dis haut et fort.
Voilà, merci Gérard Collomb. On compte encore sur vous. Allez, on en vient à Patrick Balkany maintenant. Le réquisitoire du procès aura lieu aujourd'hui. Bonjour, Patrick Balkany.
Oui, bonjour.
Alors, le défi principal des juges aura été de se repérer dans un maillage impressionnant de sociétés écrans.
Oui, voyez, un maillage impressionnant de sociétés écrans. Vous avez vu ça? C'est du travail d'orfèvre, n'est-ce pas? Écoutez, monsieur Aliaga, je vous montrerai comment on fait. C'est ma cinquième symphonie à moi. Mon Guernica, mon tube, mon thriller, mon big bisou.
Et vous avez des déclaré que pour ces sociétés écrans, vous aviez dû payer beaucoup d'impôts.
Ah ben oui, mais vous vous rendez compte de la situation. J'ai payé plus d'impôts que si j'avais payé mes impôts normaux. Quelque part, si j'ai fraudé, il faut le dire à vos auditeurs et à nos compatriotes, c'est uniquement par civisme. Fraudé pour aider mon pays.
Pourtant, vous allez voir, le réquisitoire, il s'annonce sévère. Hein,
non, mais là, c'est parce que, on va se parler franchement, la justice est partiale dans notre pays. Les juges ont décidé de se faire Balkany, de faire un exemple, alors que je n'ai rien, rien à me reprocher. Je vous regarde droit dans les yeux avec mes lunettes à double foyer. Et mon avocat, Maître Dupont-Moretti, pourrait vous le confirmer, il va vous le confirmer.
Ah ben d'accord, ok, on vous écoute, Maître. Allez-y.
Tout à fait. Mon client, Patrick Balkany, a été, je le dis haut et fort, le jouet de personnes mal intentionnées. Il a été, disons-le, naïf. Il a péché par candeur. Oui, j'ose l'affirmer, il a été crédule. Oh, non mais attendez, dites carrément, Maître, que je suis con. Attendez, non mais restez poli. Je vous signale qu'il fallait quand même en avoir dans le citron pour monter toutes ces sociétés écrans. Ça s'est joué à des détails près, c'était nu.
Maître, une réaction peut-être?
Putain, heureusement qu'il touche à sa fin ce procès, parce que je n'en peux plus de ce client. Merde.
Oui, oui, bravo, et puis Daniel Riolo et Jérôme Roten, les deux journalistes sportifs sur RMC, ont été suspendus de l'antenne pour avoir jugé que la femme qui a porté plainte pour viol contre Neymar n'était pas, je cite, un avion de chasse intersidéral, et que c'était une deuxième division. La radio s'est excusée. On va donc voir ce qu'on en pense du côté de notre confrère et de leur confrère à eux, Jean-Jacques Bourdin.
Eh oui, 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 bonjour à tous, nous nous sommes excusés. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin, bienvenue sur RMC. RMC, radio, mea culpa. Oui, oui, parce qu'il faut savoir l'admettre, parfois il y a eu un dérapage sur notre antenne. Un dérapage de Daniel Riolo, de Jérôme Roten aussi. Alors, le reste de la rédaction tient à signaler que ici, sur RMC, on a toujours respecté les bonnes femmes. Voilà, j'ai même personnellement épousé une bonne femme. Ma propre mère est une bonne femme. Et donc, la rédaction de RMC est meurtrie. Meurtrie au plus profond d'elle-même par cette affaire. Et on va en parler, tiens. Allez, on ouvre l'antenne avec un de nos auditeurs.
C'est
je prends ma fiche.
C'est Christine.
C'est qui? Eh bien, c'est René, tiens. Ah, quelle surprise. Bonjour, René.
Ouais, c'est Jean-Jacques. Ouais, ben, j'y réfléchis et finalement, je suis comme toi. Hein. C'est sûr qu'à l'antenne, on ne peut pas dire des choses pareilles. On ne peut pas dire que la meuf que Neymar il a fait venir dans sa chambre, c'est un boudin. Ça, c'est, tu vois, c'est pas respectueux de la femme, quoi.
Mais
d'ailleurs,
non,
si elle m'entend, je tiens à lui dire, mademoiselle, j'ai regardé toutes vos photos à poil là, sur Instagram.
Ouais.
Je trouve que vous avez un beau corps, voilà, avec un visage, des bonichons, tout ce que vous sérieux, du coup, je vous respecte. D'ailleurs, toutes les gonzesses gaulées comme ça, je vous respecte.
Et oui, comme toutes les gonzesses gaulées comme ça, je vous respecte. Et oui, un peu de galanterie ne fait pas de mal, vous avez raison, René. Est-ce que vous avez vu que Marlène Schiappa, la ministre à l'égalité homme-femme, femme-homme plus exactement, a réagi? Elle est indignée d'ailleurs.
Ouais, mais elle est indignée, Schiappa, c'est normal. C'est vrai qu'on vit dans une société qui est trop machiste, tu vois, trop misogyne.
Ouais, ouais.
Moi, je te dis, Jean-Jacques, franchement, des fois, je suis choqué. Les hommes, des fois, c'est des porcs. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
Moi, je dis qu'une femme, il faut bien la traiter, tu vois. Une fois de temps en temps, une petite attention, tu vois, tu lui offres des fleurs. Voilà. Bah, pas des chocolats, par exemple, parce que sinon, on a vite fait de prendre du cul. Hein. De temps en temps, tu vois, puis la fin de la semaine, bah, mais même vite, une fois tous les 6 mois au Buffalo Grill. Tu vois,
quelle chance.
Une semaine à l'été, en juillet, au camping. Tu vois, tranquille. Puis quand il y a besoin, bon, ben, t'hésites pas, tu lui offres un nouvel aspirateur, tu vois, tu la mets bien, tu la mets à l'aise, dans le confort, quoi, voilà.
Tu lui offres un nouvel aspirateur, tu la mets bien à l'aise dans le confort. Voilà, eh bien, messieurs Riolo et Roten, prenez-en de la graine. Voilà un vrai gentleman. Merci René, merci, merci. À vous, Julie.
Bravo Nicolas Canteloup.
Merci Nicolas Canteloup. Et à demain.
Le tour de la question à suivre avec Wendy Bouchard. De quoi allez-vous parler aujourd'hui, ma chère Wendy? Bonjour.
Bonjour, chers amis. Premier sujet sur l'homéopathie, puisque la Haute Autorité de Santé pourrait ne plus rembourser les médicaments d'homéopathie d'ici à la fin du mois. Si vous êtes adepte, dites-nous ce que vous en pensez et si vous trouvez qu'à titre personnel, ces traitements sont efficaces. Puis à partir de 10h, on va parler de l'amitié. Comment on apprend à se faire des amis? Ça commence dès l'enfance avec un petit cahier que publie aujourd'hui une mère et sa fille. Et puis en question d'amitié, l'équipe de Canteloup s'y connaît bien. Alors je me permets de recevoir Philippe Cadre hier et son meilleur ami parce qu'il porte l'association dont vous avez déjà parlé, mon cher Nico, c'est l'association Léo, voilà, qui aide les familles de petits et d'ados cancéreux.
C'est
et ça, c'est une magnifique aventure.
Bravo Wendy Bouchard, on se retrouve dans 6 minutes, un peu moins de 6 minutes.
À suivre la météo, l'essentiel de la matinale sur Europe 1. Il est 8h57 à suivre l'essentiel de la matinale, mais tout de suite la météo, Nico, c'est avec Laurent.
Avec les températures qui montent.
Et oui, enfin.
Oui, elle monte,
yes,
ces températures. Non, elle monte, les températures. Et, mais quand même, sur une bonne moitié d'heure, nous aurons quelquefois, parfois quelques ondées. Et voilà, le parapluie par précaution est indispensable, le PPP, surtout si vous avez des rendez-vous importants. En ce qui concerne les régions de la moitié sud, là, c'est un temps beaucoup plus ensoleillé qui nous est réservé dans le sud-ouest, mais aussi dans l'est, en Alsace, en Franche-Comté, en Rhône-Alpes et en Méditerranée, autant de secteurs où là, le vent va souffler du sud. C'est un vent de 50-60 km/h qui va réchauffer l'atmosphère. C'est la raison pour laquelle les températures sont partout en hausse de 2 à 3 degrés.
Merci de commencer. Merci beaucoup.
On revient sur les moments forts de cette matinale, Nico.
D'abord, cette information que vous révélez Europe 1 ce matin dans l'affaire de l'accident mortel de Lorient. Sur place, notre envoyé spécial Hélène Terzian. Hélène, la passagère a été interpellée cette nuit.
Oui, elle vient de passer une première nuit en garde à vue. Elle est interrogée par la police. D'après nos informations, la jeune femme de 21 ans a été arrêtée hier soir vers minuit. Après 3 jours de cavale, la passagère de la voiture meurtrière s'est laissée interpeller à Caudan, commune voisine de Lorient, où elle a fini par signaler sa présence. Le chauffard de 20 ans, responsable présumé de l'accident mortel, est toujours en fuite. Il reste activement recherché.
Hélène Terzian, en direct de Lorient pour Europe 1. Une baisse d'impôts de 5 milliards, c'est l'une des annonces faites hier par le Premier ministre Édouard Philippe lors de son discours de politique générale devant les députés. 17 millions de foyers vont en bénéficier. Alors qui est concerné et à quelle hauteur? Les détails avec Anne-Laure Jumet dans le journal de 8h.
Quasiment tous ceux qui payent des impôts aujourd'hui verront leurs factures baisser en janvier prochain, sauf les plus hauts revenus, au-delà environ de 6 000 euros par mois. Les grands gagnants sont les classes populaires et les classes moyennes, avec un gain moyen de 350 euros par an. A noter que l'effet des baisses d'impôts sera atténué pour ceux qui gagnent entre 2 100 et 6 000 euros mensuels. Là, le gain ne pourra pas dépasser les 125 euros pour un célibataire.
Anne-Laure Jumet, c'était dans le journal de 8h. Merci de nous avoir suivis ce matin. Rendez-vous demain, même heure, même équipe. Merci de votre fidélité. Wendy Bouchard, c'est à vous. Céline Dacosta, je vous embrasse.
Moi aussi, à demain, Nicolas.
Et Julie, je vous écoute.
À tout de suite. À demain, Nicolas.